Bonsoir public adoré, bonsoir. Incroyable. Très heureux de vous retrouver, chers amis, dans cette émission extraordinaire. Comme tous les jeudis, on va parler de plein de trucs, on va parler de politique, on va parler de choses merveilleuses, pardon. Mais on va commencer par un sujet très particulier. On va parler d'un événement qui va avoir lieu ce week-end qui s'appelle Battle 4. C'est parti pour l'invité de la semaine. Le son. Vous avez cassé le son. Pardon, bon, j'en parlerai en AG à la coopérative. Bonjour à toutes et à tous, l'invité de la semaine. Cette semaine, vous êtes vachement nombreux et ça fait plaisir. On est autour de ce plateau avec Tony Hélin. Salut.
Hello.
Salut Tony. Toi, tu es le cofondateur de Battle 4.
C'est ça.
Tu bosses dans l'e-sport depuis quelques années maintenant, depuis 2018. Et puis voilà, puis t'es passionné et donc t'as créé cet événement dont on va parler pendant cette séquence. On est aussi avec Martin Laffey. Martin, salut.
Bonjour.
Martin, toi tu travailles chez Handicap International, l'ONG, et tu es responsable de projet gaming.
C'est ça.
Je savais même pas qu'il y avait des responsables de projet gaming chez Handicap International.
Je suis étonné aussi.
Tu vas nous en parler. On est avec Epsilon. Salut Epsilon.
Salut.
Ça roule ?
Ça va.
Epsilon, toi, t'es une ancienne tatoueuse.
C'est ça.
Et aujourd'hui, tu es sur la Twitcherie.
Enfin, je suis encore tatoueuse.
T'es encore tatoueuse,
ouais.
Et tu es sur Twitch.
Exactement.
Cher consoeur, ça fait plaisir de te recevoir, ouais, sur le plateau de Daxi. Tu vas participer à Battle 4.
C'est ça.
Ce week-end, tu vas nous parler de ça. On est aussi avec Vincent Manilev.
Salut Jean.
Ça va Vincent ?
Je refais l'intégralité de ma collection de casseroles, donc
ouais. Vincent, tu es une personne extraordinaire, notamment parce que tu es chroniqueur sur Backseat.
Ah d'accord, ok.
Mais tu...
J'attendais le...
Okay. Ouais, mais tu es également influenceur.
Mais pas du tout.
Mais si,
arrête de me blaguer là-dessus.
Tu vas participer à Battle 4 ce week-end, toi aussi.
Bah, j'ai la chance d'avoir été convié pour la deuxième année en plus, et je suis très heureux de pouvoir me rendre utile. Voilà.
Et je t'ai proposé de venir avec nous sur ce plateau pour avoir aussi tes analyses, puisque tu regardes le monde du numérique, et ça en fait partie. Bon, alors Battle 4, on va rentrer dans le vif du sujet. Tony, Battle 4, c'est quoi ? C'est un événement caritatif pour lever du pognon pour Handicap International. Et
Premier de Cordée.
Et Premier de Cordée, la deuxième ONG, c'est ça ?
C'est ça. Le principe, c'est ouais, de mettre en avant deux associations. Donc là, Handicap International et Premier de Cordée. Et l'objectif, vraiment, c'est de collecter des fonds pour eux, pour qu'ils puissent faire des actions sur une thématique bien définie, qu'on choisit donc nous, parce que Battle 4 est une association en plus,
okay,
d'être un événement. C'est une association qu'on a créée à la base, qui a été, on va dire, chaperonnée par Handicap International, puisque les actions qu'on pouvait mettre en place auraient pu être quelque chose de plus grand. On a commencé par un événement, on ne fait pas comme toutes les assos, on a commencé par un événement très gros au Stade de France, et maintenant on applique de plus en plus d'actions sur le terrain, parce qu'on intervient dans la métropole de Nantes, dans la métropole de Montpellier, et ces derniers temps sur Paris.
Donc qu'est-ce qui va se passer ce week-end du coup ? Sur Twitch, on va voir un paquet de trucs, de chaînes qui vont nous proposer des contenus incroyables. Il y aura qui ? Il y aura des streamers, des streameuses, il y aura quoi d'autre ?
On a de tout. Ça va du monde du streaming, du monde de l'influence, des sportifs, des personnalités du monde du cinéma ou de la musique qui passent sur l'événement, tout simplement parce qu'on a une partie sportive et une partie donc, streaming qui est vraiment orientée sur partie streaming, on est là pour la collecte de fonds. On a toute une partie sport qui est complète avec tout type de sport. Donc on va sur du sport pour les personnes en situation de handicap, puisqu'on aura des démonstrations de CC Foot et d'Andy Basket cette année.
Donc, trop bien.
Dans lesquels les streamers pourront venir participer et donc se mettre à la place d'une personne en situation de handicap. Et tout simplement, le but de Battle 4, c'est vraiment d'aller récolter des fonds sur, cette année, la thématique du handicap, qui est la thématique forte pour nous cette année. L'an dernier, on était sur l'inclusion, cette année, on est sur le handicap. Donc, le but, c'est d'aller travailler sur le handicap visible et invisible.
Ok, Darien, justement, je me tourne vers toi, Martin. Du coup, je le disais, toi, tu es responsable de projet gaming chez Handicap International, qui est l'ONG qui va bénéficier, du coup, une des deux ONG, du coup, avec Premier de Cordée, qui va bénéficier des dons qui seront faits tout au long du week-end. Ça veut dire quoi, responsable de projet gaming chez Handicap International ?
Alors, ça veut dire que je suis chargé de trouver, créer... Des partenariats ou bien nouveaux projets en lien avec le monde du gaming en général.
Okay.
Donc ça peut être l'industrie du jeu vidéo tout simplement, les éditeurs, etc. pour des partenariats de toutes sortes ou bien des événements caritatifs tels que Battle 4, donc du streaming avec toutes sortes de plateformes. Chez Handicap International, je pense qu'on est la seule ONG à avoir un poste spécialisé là-dessus.
Ouais, je te garantis, ouais.
Je crois que j'ai pas de collègues ailleurs qui font ça.
C'est dommage d'ailleurs. Voilà.
Oui, c'est parce qu'on est une ONG qui aime bien l'innovation.
Ouais.
Que ce soit à tous les niveaux, et notamment sur le terrain, on fait des choses assez... On teste toujours des choses innovantes, on fait du déminage avec des drones, on fait des prothèses 3D maintenant.
Trop bien.
On fait plein de choses assez, assez intéressantes comme ça, qu'on teste.
Alors, j'allais te demander justement, parce que j'ai parlé d'handicap international comme ça, mais c'est quoi cette ONG? Vous faites quoi? C'est quoi votre spécialité? Raconte-nous.
Donc, Handicap International, c'est une ONG de solidarité internationale qui travaille essentiellement à l'étranger,
okay,
dans plus de 60 pays. On a près de 400 projets dans le monde entier. Et la principale activité dans l'handicap international, c'est de venir en aide aux personnes vulnérables.
Okay.
Donc, c'est les personnes qui ont un accès moindre à l'aide humanitaire.
Okay.
Donc, c'est les personnes handicapées, essentiellement, mais pas seulement. C'est aussi, ça peut être une femme seule avec enfant, ça peut être des personnes âgées, toute personne qui va avoir plus de difficultés à trouver l'aide humanitaire. Nous, on va essayer d'amener cette aide là où elle est plus compliquée à trouver. Et puis après, notre spécialité, on a des cœurs de métier. Évidemment, on est assez connu en général pour les prothèses,
oui,
pour le combat contre les mines, évidemment.
Oui, mines antipersonnelles, oui.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour enlever un poids, si tu l'avais. Oui, nous condamnons les violences, notamment celles faites aux civils dans les zones de conflit.
Et vous avez bien raison de le faire.
Voilà. Les projets, cette protection des civils et cette aide aux personnes vulnérables, elle se fait à la fois sur la personne directement.
Ouais.
Donc ça, c'est le cœur de métier, c'est-à-dire quelqu'un saute sur une mine, c'est terrible, on va lui faire une prothèse, on va lui faire de la réadaptation pour qu'il puisse se remettre debout, marcher, utiliser sa prothèse. Donc ça, c'est le cœur. Mais après, on travaille aussi avant. Et on travaille aussi après, c'est-à-dire que l'idée, c'est que cette personne, elle ne saute pas sur une mine. Donc ça, c'est le combat contre les mines.
Ouais.
Donc c'est du plaidoyer, on va essayer d'empêcher qu'il y ait des mines. Donc là,
Il y a un travail politique, diplomatique. Exactement. Sur l'interdiction des bombes à sous-munitions, etc.
Ça a amené au traité d'Ottawa contre les mines, Il y a eu plusieurs traités. Là, dernièrement, on a signé c'est pas un traité complètement, pas encore, mais c'est une déclaration politique contre les bombardements de civils en zone peuplée.
Ouais.
C'est un peu complexe, mais on ne peut pas interdire les bombardements en tant que pratique complètement.
Malheureusement.
Mais en tout cas, on peut commencer.
Limiter en disant pas les maisons.
Voilà. Ouais, et il y a déjà plus de 80 États qui ont signé, dont les États-Unis.
Oh
oui.
C'est pas vrai
Oui.
Ils signent des trucs comme ça maintenant. Oui. C'est un progrès, on ne va pas se plaindre. Hein.
Et donc ça, c'est avant, effectivement, empêcher que ça arrive, faire aussi de la prévention dans les communautés pour dire, attention, s'il y a une mine, là, ça ressemble à ça. Ne touchez pas, appelez telle personne. Enfin, on fait beaucoup de prévention comme ça avec des formateurs, etc. Donc ça, c'est avant. Et puis après, parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un à qui on a mis une prothèse comme ça en leur disant « c'est bon, tu peux marcher maintenant, débrouille-toi », parce qu'une personne qui n'était pas handicapée avant, qui l'est devenue, elle a peut-être perdu son travail, elle est peut-être dans un pays où le handicap est mal vu. Donc on va travailler l'inclusion, justement, l'inclusion dans le milieu professionnel, l'inclusion sociale, tout simplement.
Ok.
Etc. Et puis défendre les droits après des personnes handicapées dans les pays où ils se trouvent.
Epsilon, toi, c'est ta deuxième participation à Battle for. Tu l'as déjà fait l'année dernière. On t'a reproposé cette année et t'as dit oui direct.
Ouais, j'ai dit oui directement. Même à la fin de l'année dernière, j'ai dit que j'étais partante parce que je trouve ça génial.
Alors raconte-nous, comment ça va se passer pour toi? Qu'est-ce que t'avais fait l'année dernière? Qu'est-ce qui te donne envie de participer à ça?
Ça me donne envie de participer pour pouvoir donner un peu ma voix et. À cette association, ces associations, je trouve ça important. Si je peux faire quelque chose, c'est 3 jours, c'est rapide et ça aide vraiment beaucoup de personnes. Et ce que je vais faire, je vais streamer non-stop, je vais très peu dormir.
C'est 54 heures au total, je crois.
Ouais.
C'est
ça.
Vendredi 18h à dimanche minuit.
Putain, ça va être trop bien. Donc, je précise d'ailleurs, puisqu'on y est, on te retrouve sur twitch.tv/epsilon.
Epsilon, c'est
tout
ça.
Tout à fait. Les modos, je vous laisse spammer le chat avec le stream. Vincent, c'est pas le premier événement caritatif qu'on retrouve sur Internet. C'est quoi? C'est l'effet The Event? C'est un effet de mode? Comment t'analyses ça, toi?
Je pense que c'est un peu une conjonction de plusieurs choses. Je pense que du côté des streamers, il y a une volonté aussi de se rendre plus utile, de se dire que leur métier peut avoir un sens supplémentaire encore au-delà du divertissement ou des discussions, des discours qu'ils peuvent tenir et avoir un impact vraiment concret en termes de dons auprès d'associations. Je pense aussi qu'il y a des associations et des ONG qui ont compris que ça pouvait leur permettre de récolter des dons différemment, de manière très impactante avec le Z Event, c'est... un petit peu le phare dans tout ça, mais il y a plein d'autres événements. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu une question par rapport à ça, parce que derrière, Avec le ZDF, il y a eu plein de sujets et de questionnements, de polémiques aussi. Et moi, bon, je vais y participer, mais forcément, j'ai aussi ma casquette où je me demande comment ça s'organise. Mais typiquement, par exemple, comment on choisit les associations, comment on s'assure que ça va fitter, que c'est safe, on va dire, parce que le ZDF aussi, il y a eu des polémiques, ils ont dû changer de braquet, etc. Voilà, ma question, c'est un peu comment on s'assure que voilà, on travaille avec les bons partenaires sur ce genre d'événement.
Tony.
Comment est-ce qu'on trouve les partenaires, du moins les partenaires associatifs? Tout simplement, au niveau, là, sur le choix des assos. Donc, si je reprends l'an dernier et je prends le cas de cette année, déjà, avec Martin, ça faisait très longtemps qu'on discutait de sujets autour de levée pour Handicap International. Donc, ce n'est pas, on va dire, un coup d'essai ou un discours qui s'est fait très vite. C'est une longue discussion, une acculturation aux côtés de HI, auprès de Martin, surtout auprès de la direction de HI, pour comprendre quelles étaient les étapes de levée, etc. On a eu l'avantage d'avoir Martin, qui, lui, est très proche de nous et qui est très souvent et qui suit absolument tout ce qu'on fait. Donc, du coup, Martin est très impliqué dans le projet. Et en fait, comment est-ce qu'on choisit l'asso? C'est lié à ça. C'est l'application. Et tout simplement, on choisit une thématique. Une fois qu'on a choisi cette thématique, on a plusieurs cibles d'associations. On laisse la possibilité aux associations de venir discuter avec nous. On les sonde même, des fois, pour certaines, pour vraiment aller chercher toute la possibilité d'association qu'on peut avoir. Et si je prends le parcours de Premier de Cordée, tout simplement, on a été sur tout ce qui était handicap visible et invisible sur la préparation. Et on a fini donc par avoir un call avec Premier de Cordée, mais avec d'autres associations aussi. Et en gros, on a vu avec Premier de Cordée que ça fitait vraiment sur l'organisation, parce que il faut savoir que nous, sur notre partie organisationnelle, on n'est pas tout seul. Il y a les assos. Les assos sont extrêmement impliqués dans le développement, que ce soit sur la partie financière, que ce soit sur la partie logistique, que ce soit sur la partie bénévolat. Les assos sont impliqués à 100% dans l'événement. Elles peuvent se positionner et on leur laisse la possibilité de se positionner sur l'intégralité des postes.
Tony, tu peux nous parler de Premier de Cordée? Ils ne sont pas avec nous sur le plateau. Du coup, tu peux nous présenter ce qu'ils font, leur association?
Premier de Cordée, donc, dont la présidente est Nathalie Péchala, dont le directeur général est Sébastien Ruffin. Simplement, aujourd'hui, ils interviennent à travers le milieu hospitalier. Et en fait, ils s'occupent de personnes sur des courts, moyens ou longs séjours. Tout simplement, ils font des animations sportives au sein des hôpitaux. Et ils vont même jusqu'à aujourd'hui, là, donc plus récemment, une des raisons pour laquelle donc, ils font partie cette année de projets qu'ils aimeraient développer un peu plus, c'est vraiment aller s'occuper de tout ce qui est handicap invisible, puisqu'ils ont déjà des interventions avec du sport, parce qu'ils intègrent de plus en plus de sport. Ils ont créé une machine qui va directement dans les hôpitaux, c'est une tour de sport. Peu importe le handicap ou peu importe la situation dans laquelle on est, on peut utiliser cette machine. Donc, il y a tout type de sport qu'on peut faire avec. Donc l'objectif, c'est vraiment intervenir auprès du milieu hospitalier pour faire, changer un peu le quotidien des enfants, plus particulièrement, qui sont dans les hôpitaux et qui n'ont pas forcément la possibilité de faire du sport.
D'accord, ok. Bon, donc ce seront les deux organisations bénéficiaires de cet argent récolté au cours du week-end, Handicap International et Premier de Cordée. L'année dernière, vous aviez levé 450 000 euros au cours de... 437 000, pardon, j'ai arrondi. ça a servi à quoi? Vous avez continué à être en lien avec les associations après sur l'utilisation des fonds?
Je pense que Martin peut répondre.
Martin,
oui, alors...
qu'est-ce que vous faites de l'argent?
Ouais. Je répondrai pour appart, du coup.
Alors nous, c'était en fait, on est en accord avec Battle for, c'était assez clair dès le départ. L'argent qu'on récolte via cet événement, c'est un argent qui va dans nos fonds propres, c'est-à-dire qu'il est mutualisé.
Okay.
C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas pour quelque chose de spécifique. Et d'ailleurs, on ne dit à personne qu'on va l'utiliser pour ceci ou ceci spécifiquement. Il va être utilisé là où on a le plus besoin.
Donc sur l'ensemble de vos opérations fonction des besoins, d'accord.
Et en fait... ce qui est très important pour nous, c'est que cet argent, il est vraiment, il a vraiment beaucoup de valeur pour nous parce qu'il nous offre de la liberté. En fait, tous nos financements ne sont pas privés. On a des financements qui sont institutionnels, beaucoup. Et le financement privé, notamment de ce genre d'événement, eh ben justement, il nous permet de se dire, là, on a une crise sur laquelle on a moins de financement, ou alors on voudrait intervenir, mais on n'est pas forcément en capacité de le faire sur certains projets. On a de l'argent qui est dans nos fonds propres grâce à ce genre d'événement. On va pouvoir le mettre sur la table pour y aller tout de suite. Pareil pour les urgences. On va pas avoir à se demander est-ce qu'on peut agir en urgence, parce que sur les urgences, on fait des appels aux dons et on peut pas attendre que l'appel aux dons fonctionne. Il faut qu'on soit là dans les 48 heures. Donc grâce à cet argent-là, on va pouvoir investir pour aller tout de suite sur le terrain. Et ensuite, on va pouvoir attendre que l'argent de la médiatisation arrive pour... concrétiser tous les projets qu'on veut concrétiser. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'argent qui nous permet d'agir sur les crises oubliées, ce qu'on appelle les crises oubliées, là où il y a...
Où c'est plus dur de lever des fonds,
Oui, voilà, où la médiatisation, elle se perd un peu, et du coup, c'est plus dur de lever des fonds. Et puis, dans les urgences, quand on veut agir le plus vite possible.
Ok, d'accord. Epsilon, toi, l'année dernière, ta communauté avait répondu présente, elle avait fait des dons. T'avais été surprise agréablement ou...
Oui, vraiment.
Ou ils n'ont pas donné assez, ces salauds?
Si, ils ont donné vraiment beaucoup. Ils ont donné vraiment pas mal, je ne pensais pas avoir autant et...
C'est cool.
Ouais, c'était génial.
Tu sens que t'as un impact, toi, en tant que... Alors, influenceuse, tu sais que moi, je déteste le terme, mais tu vois ce que je veux dire. Tu sens que t'as un impact...
Tu l'as utilisé pour moi.
Ouais, je sais, mais c'est juste pour te faire chier, Vincent. Non, tu sens que t'as un impact et que le fait que tu lèves de l'argent pour une cause, ça touche les gens, ou c'est juste parce que tu fais des trucs rigolos en stream?
Non, j'ai l'impression que ça a touché pas mal de personnes. Au moins, ils ont pu entendre un petit peu ce que c'était, en apprendre un peu plus sur l'association. J'avais demandé à une personne qui était sur place de venir avec moi, une personne de l'association Handicap International, pour qu'on fasse un petit question-réponse pendant une heure.
Ouais.
Et le chat était vraiment présent, les gens ont posé des questions intéressantes et c'était top.
Vincent ?
Mon bilan personnel ?
Oui.
Moi, j'étais très, très heureux. J'avais mis des paliers que j'ai dû rehausser assez vite, en fait, parce que c'est difficile de savoir un petit peu la capacité qu'on a en tant que personne comme ça à récolter des dons. Et non, c'était un très, très bon souvenir. Et c'est difficile des fois de se sentir utile quand on fait du contenu sur Internet. Je suis journaliste, de base, je fais du stream à côté. Mais de voir qu'on peut avoir un impact concret comme ça... juste en étant présent en ligne, en entretenant aussi, en proposant du contenu, ce genre de choses, c'est extrêmement gratifiant et je suis content de voir un petit peu que ça sert et que comme tu l'expliquais, que c'est concret, quoi, que l'application elle est concrète dans la foulée. Donc,
Tony, tu as parlé de Stade de France tout à l'heure, c'est vrai que ça impressionne vachement le Stade de France. J'ai vu dans le chat des gens poser des questions en disant mais ça doit coûter un bras, comment c'est financé tout ça?
Alors il faut comprendre qu'on ne loue pas l'intégralité du Stade de France.
Ah.
Parce que sinon ce serait très compliqué. Il faut savoir qu'on a une salle, ça a un budget parce qu'automatiquement ça reste le Stade de France, mais comme n'importe quel type d'événement, ça a un coût. On a l'avantage d'avoir un très bon partenariat de mécénat avec le Stade de France.
Donc ils font un gros geste sur le tarot.
Un très très gros geste sur le tarot.
Merci, c'est cool.
Même si j'ai pas forcément le droit de le dire.
Non, mais...
Même faire taper sur le doigt par le stade. Mais non, il y a vraiment... Et il faut savoir, et c'est souvent le cas, on peut souvent l'entendre dans les événements caritatifs, mais oui, il y a un budget, c'est normal, automatiquement, on travaille, mais comme je l'expliquais un peu au début, on travaille le budget avec les assos, c'est-à-dire que tout est explicite envers les assos, tout est présent, il n'y a aucune ligne qui est cachée aux associations, les associations savent exactement où va l'argent, et la récolte sert vraiment à quelque chose. Et pour revenir donc sur la thématique que tu posais par rapport aux assos, je prends l'exemple d'Apart l'an dernier, donc qui a été une des deux assos bénéficiaires, ça leur a permis de faire un voyage, donc simplement en Amazonie, avec une partie des fonds, parce qu'ils avaient déjà commencé à récolter des fonds par rapport à ça, ça leur a permis de compléter et de partir plus vite, puisque normalement le projet était à 2 ans, et en fin de compte le projet est descendu à 1 an, puisque avec les fonds qu'ils ont pu récolter, ils ont pu emmener 16 jeunes en Amazonie, si je ne dis pas de bêtises.
Donc c'est super concret, c'est hyper important, pour les assos c'est hyper important. Tu voulais dire un truc, Vincent ?
Oui, enfin, moi j'ai un peu une question sur les streamers et les personnalités que vous invitez, parce que là on a encore vu il y a quelques semaines à peine pas mal de problèmes autour d'un autre événement et la présence d'une personnalité...
Controversé,
on va dire. Voilà, c'est pas le mot que j'avais utilisé, mais je te le laisse. C'est un vrai, vrai sujet aussi, la présence de qui est présent, qui est invité à des événements, et que ce soit des événements caritatifs ou à d'autres événements. Il y a eu des polémiques autour de la Zilane aussi. Là-dessus, comment vous travaillez sur ça? Parce que c'est vrai que c'est compliqué des fois de... En plus, avec autant de personnalités, en présentiel et aussi à distance, comment vous mettez en place ce travail-là pour inviter les bonnes personnes?
Pour aller directement avec toi et être très franc là-dessus, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans l'événementiel, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'e-sport, ça fait aussi, c'est pas mon premier événement caritatif non plus. Donc du coup, on a mis en place, nous, ce qu'on appelle un screening de notre côté, qui fait que automatiquement, on fait une liste. On se fait une liste complète, c'est-à-dire que peut y avoir des noms qui peuvent être dits controversés dans cette liste, mais que tout simplement après on fait un screening, donc c'est-à-dire qu'on va prendre les noms un par un et on a des équipes qui vont les travailler de voir si déjà la personne est intéressée à l'événement en priorité Et dans un second temps, bah, on va voir si oui ou non, on va continuer les échanges ou pas, parce que bah, ça peut y avoir forcément des choses qui ne sont pas forcément intéressantes sur les réseaux, ou des choses qui se sont passées, ou éventuellement des dossiers cachés. Donc bah, notre objectif, c'est de travailler là-dessus. C'est une des forces qu'on a, je pense, aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose sur laquelle on travaille le plus. Et pour nous, c'est le plus important, c'est-à-dire fournir déjà une line-up qui n'est pas forcément que fait que de gros, parce que si vous regardez bien, vous avez des communautés qui vont de plus de 2000 viewers jusqu'à des communautés qui, pour certains, seront en présentiel là, qui ont entre 2 à 10 viewers. Donc, notre objectif, c'est de donner la chance à tout le monde, tout en faisant attention de ce qui pourrait se passer, parce que bah, on engage, même si c'est notre vue, enfin, notre image, on va dire, à nous, on engage aussi celle des associations. Et pour nous, c'est important. Et pour la petite anecdote, Martin pourra te la confirmer sur ce point de vue-là, Handicap International, des fois, nous trouve trop, on va dire, strict sur les choix qu'on pourrait faire.
Ouais, je comprends.
Mais non, je précise que je suis très fier du travail qu'ils font. Et aussi du fait qu'on ait une parité respectée, ce qui est assez formidable.
Oui, ça, c'est cool. Bravo. Ouais. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a Sandoz qui va nous rejoindre sur le plateau. Salut Sandoz, comment ça va ?
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Sandoz, toi, t'es vidéaste ?
Désolé pour le retard déjà.
T'inquiète, t'inquiète, j'allais faire ça discrètement. Sandoz, toi, t'es vidéaste aussi, on te connaît sur YouTube, notamment pour tes vidéos où tu chasses les arnaqueurs.
Tout à fait.
Et c'est un plaisir de te retrouver sur le plateau de Daxi. Toi aussi, tu seras à Battle 4 tout le week-end. Qu'est-ce que tu vas faire ?
Alors, là, je suis en retard, mais pour le Battle 4, je serai pas en retard pour faire déjà des dons.
Parle bien dans le micro, rapproche-le de toi.
Déjà des dons et surtout faire en sorte que la cause, qu'on puisse récolter un maximum d'argent pour l'association, ouais, les deux associations.
Ok, d'accord. C'est un sujet qui te touche, qui t'importe, toi, le handicap ? C'est un truc qui te...
Bien évidemment, parce que j'ai moi-même des enfants et malheureusement, j'ai aussi un enfant qui a atteint d'une maladie. Et puis, j'aimerais faire en sorte que les choses bougent.
Ok. C'est pas ta première participation à Battle 4 ?
C'est la deuxième édition.
Ça s'était passé comment l'année dernière ?
Excellent.
Ouais.
C'était parfait sur tous les points. Et cette année, on va essayer de donner de notre maximum pour tout péter.
Ouais. Pour que nous donnions du maximum. Non, mais c'est vrai, chapeau. Bah, du coup, on va terminer avec vous là-dessus. Faites-nous rêver. Pourquoi il faut regarder le Battle 4 sur le stream d'Epsilon ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est quoi tes donation goals ? Dis-nous un peu.
J'ai vraiment n'importe quoi en donation goal. Je vais faire des tatouages pendant l'event. On m'a réservé une petite salle spéciale. Donc, je vais tatouer.
Loge vue sur stade et tout.
C'est ça.
Allez.
Sur terrain. Je vais tatouer un peu toutes les personnes qui sont sur place. Donc, il y a ça dans mes donation goals.
Trop bien.
Et voilà, on va s'amuser.
Ok. Vincent, qu'est-ce que tu vas faire comme connerie, toi, si on donne de l'argent ? Pourquoi il faut donner chez toi ?
Alors, moi, j'aimerais bien faire un live randonnée pour repérer des traces d'ours dans les Pyrénées.
Non, c'est même pas une blague.
C'est très bien, les ours. Et sinon, je m'engage à écrire, s'il y a un palier atteint, une fanfiction en 10 chapitres et les gens choisissent les personnages. Donc peut-être qu'ils te choisiront toi comme personnage. Donc n'hésitez pas.
Voilà. Il est à combien ce donation goal là ?
Très bas. Je le fais pour le plaisir.
Oui, pour le nôtre aussi. Sandoz, fais-nous rêver. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder chez toi ? Pourquoi il faut faire des dons chez toi ce week-end ?
Et ouais. Très, très belle question. Non, bah, tout simplement, pour la bonne cause et on va vous régaler tout simplement. On va vous
T'as pas encore fêté de Donation Goal, c'est ça ?
Franchement, pas trop.
T'inquiète, on l'a tous fait. Eh bien, écoute, très cool. Chers amis, on va être rejoints sur ce plateau par la ministre déléguée chargée du handicap. Je sais pas si elle est là, si elle est prête. Vous me dites, j'ai pas eu d'infos en fait. Tchoum, parce qu'on voulait, vous n'avez pas d'infos non plus. Bon, bah écoutez, il n'y a personne en régie. What the fuck? Ok. D'accord, bah écoute, on va meubler, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour leur donner envie de passer le week-end peinard à la maison à faire des dons pour Battle 4? Tony?
Bah, il va y avoir plein de choses.
Ouais.
Il y a énormément de choses surtout qui se passent au niveau du développement, parce qu'il faut savoir qu'on a une équipe de développement derrière, c'est extrêmement magique. On a des choses qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui en développement, dont un système de multi-streaming qui a été créé spécifiquement pour l'occasion de l'événement, qui est juste exceptionnel,
ouais.
Que j'invite les gens du coup à venir voir directement sur la page du Battle 4. En allant directement sur le site, on a accès à l'intégralité des streamers, on a tout, la visibilité de ce qui se passe en temps réel, système de statistiques, tous les clips qui remontent pendant l'événement, plus ce système de multi-streaming. Donc, ça fait partie, on va dire, pour nous, de cette partie-là. Et puis après, il y a multiples personnalités qui vont passer sur l'événement et des magnifiques streamers qui vont... En espérant pas forcément se tuer à la tâche. c'est pas l'objectif.
Non, quand même pas.
Mais voilà.
Vous blessez pas, mais non, mais en tout cas, ça va être trop, trop cool. Donc, en tout cas, voilà, tout le week-end sur le site internet, vous trouverez tous les streamers. Il y aura vos streamers et vos streameuses préférés, Vincent, Epsilon, Sandoz, qui seront là pour vous régaler aussi, essayer de vous inciter à faire des dons. Comment on fait? Tu veux laisser ta place, Vincent, pour la ministre ou...
Oui.
Bah, non, je sais pas parce qu'il
nous manque un ordre, Jean.
Non, c'est pas. Non.
Non, mais si, je vais.
Oui. Non, je
vais
vous sais
laisser.
Pas.
Si, je vais vous laisser. C'est terrible comme au revoir. Voilà. Merci beaucoup.
Merci Vincent, vous pouvez l'applaudir alors que Geneviève Darrieussecq nous rejoint sur le plateau. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée auprès du ministre des Solidarités chargée du handicap, qui nous rejoint sur le plateau. On voulait vous recevoir, Madame la ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait vous recevoir parce que voilà, une ONG, des ONG vont récolter des dons tout ce week-end pour la cause du handicap. C'est le dossier dont vous vous occupez au sein de ce gouvernement. C'est un dossier politique. Quel regard est-ce que vous portez sur cette mobilisation de la société civile, des jeunes, d'Internet sur la cause du handicap?
Bah écoutez, je la trouve assez formidable. J'ai en fait découvert cette initiative, j'ai été nommée en juillet dernier,
ouais.
Et je me suis rendue au Paris Game Week, c'est ça
où, la Paris Games Week, ouais.
Games Week, enfin bon, excusez-moi. Hein,
non, mais on va dire
bonne.
Les choses. Vous êtes familière du jeu vidéo, Geneviève Darrieussecq, ou pas plus que
pas
ça?
Pas vraiment.
Voilà, c'est pas grave.
Non, mais vous voyez, il faut le dire, il faut l'avouer.
Ah, il n'y a aucun problème, non.
Donc, je me suis rendue là-bas. Et je suis tombée sur des gens extraordinaires. Jérôme Dupire qui m'a présenté eh bien, nos amis de Battle 4,
ouais.
Puisqu'on ne dit pas 4. Hein,
non, Battle 4. Ouais.
Battle 4. Aussi, tous ceux qui travaillaient sur l'accessibilité des jeux vidéo.
Ouais.
Microsoft, Ubisoft. J'ai rencontré aussi Neo. Enfin, des gens qui étaient très motivés sur les sujets de société. J'ai trouvé ça formidable. Et voilà, j'ai bien échangé... avec nos amis de Battle 4, j'ai trouvé que ce qu'ils avaient réalisé l'année dernière était assez extraordinaire. Et donc, voilà, je leur avais dit que si je pouvais, je passerais les voir. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion ce week-end, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que moi, je vous souhaite... une très très bonne merci séance. Voilà.
Quand on parle de handicap, on parle d'inclusion et vous en avez parlé, Madame la Ministre. L'inclusion, il y a aussi l'inclusion dans le jeu vidéo, l'inclusion dans le numérique. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Le handicap n'est pas que physique et quand bien même il l'est, c'est pas pour autant qu'on peut réussir à jouer aux jeux vidéo. C'est un sujet sur lequel vous travaillez, sur lequel il y a des progrès qui sont faits.
Bah, moi, j'ai découvert justement là, en échangeant avec les partenaires, les développeurs de jeux vidéo, qu'ils avaient une attention particulière sur ce sujet du handicap et que faisaient des jeux, il y avait des jeux de couleurs, il faut faire attention aux couleurs, à la luminosité. Ouais. Pour certains jeux, il faut qu'il y ait des écritures plus importantes. Enfin, ils mettaient véritablement en accessibilité certains jeux et je trouvais que c'était bien parce que il y a une chose qu'il faut se dire quand même, c'est que un jeune, alors je parle d'un jeune, il y a des moins jeunes aussi qui sont geeks.
Bien sûr,
mais
bien sûr.
Un jeune ou un moins jeune qui est geek, enfin, il y en a beaucoup aussi dans les personnes qui vivent avec des handicaps. Ce sont des personnes comme les autres, avec une appétence pour les jeux vidéo, potentiellement. Il faut pouvoir mettre ces jeux en accessibilité pour eux.
Il y a une conférence nationale sur le handicap qui doit se tenir la semaine prochaine. Un certain nombre d'associations vous ont demandé de reporter cette conférence, jugeant que les moyens ne sont pas suffisamment sur la table pour lutter contre le handicap. Qu'est-ce que vous répondez, Geneviève Darrieussecq?
Je réponds que je suis très étonnée parce que ça fait 6 mois que nous travaillons avec toutes ces associations. 8 groupes de travail, 40 réunions. Enfin, il y a des propositions qui ont été faites que l'on va reprendre quasiment toutes. Donc, je n'ai pas très bien compris, mais tout ça va s'arranger. Moi, je suis optimiste. Il faut que l'on avance. Nous avons beaucoup de choses à construire encore pour les personnes en situation de handicap et nous allons le faire.
Alors, ça va s'arranger, je le souhaite, mais c'est pas facile en ce moment, la discussion entre le gouvernement et la société civile. On est dans un contexte où il y a des mobilisations quand même assez importantes. Vous pouvez comprendre que les associations rechignent à venir échanger avec vous ou pas?
Moi, je comprends tout, mais moi, je sais que dans le domaine du handicap, toutes les choses ont toujours été co-construites avec les associations et surtout aussi avec les personnes concernées.
C'est une particularité du secteur.
Une particularité du secteur. Et je peux vous assurer que pour cette conférence-là, ça s'est passé exactement de la même façon, avec au contraire même une concertation très, très poussée. Et beaucoup, 500 personnes qui ont participé à ces groupes de travail. Donc voilà, nous allons trouver les solutions. En plus, je pense qu'on aura de très très belles perspectives après cette conférence nationale du handicap qui va mettre tout le monde d'accord.
Et les perspectives, on en a besoin puisque le taux de pauvreté des personnes en situation de handicap est plus important que celui de la population générale. On parle de 19% de personnes handicapées qui sont sous le seuil de pauvreté. Le taux d'emploi aussi des personnes en situation de handicap est plus difficile. C'est une partie de la population qui a aussi besoin de l'action publique.
Bien sûr, et de la solidarité nationale. Et la solidarité en termes effectivement de soutien à la vie, de soutien aussi en moyens pour compenser le handicap et faire en sorte qu'ils aient la vie la plus facilitée possible. Mais nous travaillons beaucoup à... Moi, ce qui m'importe, c'est que les personnes qui vivent avec un handicap soient insérées dans notre société, qu'elles soient insérées à l'école, qu'elles soient insérées dans le travail. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait dans l'emploi, avec une diminution importante du taux de chômage des personnes handicapées. Et nous devons poursuivre parce qu'il faut... Mais moi, j'ai besoin de vous. Et je crois que la jeunesse, besoin de la jeunesse, pour casser les préjugés, casser les idées reçues, le handicap est mal connu. Et notamment le handicap qui est invisible. Voilà.
Ouais.
Et c'est 80% des personnes.
C'est vrai.
Dans l'imaginaire des personnes, quelqu'un d'handicapé, c'est quelqu'un avec un fauteuil roulant.
Oui, c'est vrai, c'est l'idée qu'on en a. Oui.
Bien sûr que ça existe, mais il n'y a pas que ça. Et 80% des handicaps, ce sont des handicaps cognitifs, intellectuels, psychiques, et qui nécessitent vraiment que nous fassions, non seulement, c'est pas faire attention à eux, mais que nous les incluions dans notre société, comme d'ailleurs les gamers les incluent dans leur série de leur partie, leur jeu, je ne sais pas comment vous appelez
ça. Il y a besoin d'inclusion, il y a besoin d'inclusion, il y a besoin de la participation de la société civile. Tu voulais dire quelque chose, Sandoz, n'hésite
pas. Non, absolument pas, j'allais finir la phrase
de la ministre.
Bah, je vous remercie.
Il y a besoin aussi de moyens, je pense par exemple à l'inclusion en milieu scolaire, c'était au début du siècle qu'a été votée... la loi qui prévoyait l'objectif que les enfants en situation de handicap soient accueillis en milieu scolaire avec les autres. Les moyens ne sont toujours pas là, on manque d'AESH, les associations continuent à s'en plaindre, l'État n'est pas suffisamment présent. Qu'est-ce que vous répondez, Madame la Ministre, à ça ?
Non, les moyens financiers sont là.
Alors pourquoi ça ne marche pas ?
Et par contre, c'est les moyens humains, parce que nous n'avons pas... on peut avoir du mal à recruter des AESH.
Est-ce que ce sont des métiers précaires ?
Mais ils vont être déprécarisés. Nous y étions engagés et nous allons le faire.
D'accord.
Mais il y a 132 000 AESH en France, il y a 430 000 enfants scolarisés, handicapés scolarisés. C'est très très important. Nous avons augmenté de façon très très importante. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de jeunes qui vont au collège, qui vont au lycée, qui font aussi des études supérieures. Ce qui montre que l'inclusion scolaire fonctionne de mieux en mieux. Et il n'y a pas que les AESH, nous allons... mettre beaucoup plus de moyens médico-sociaux, c'est-à-dire des professionnels médico-sociaux, parce que les AESH ne sont pas des professionnels du médico-social, pour justement aider la communauté éducative à mieux encadrer ces enfants.
Votre collègue Pap Ndiaye avait déclaré en fin d'année dernière que tous les enfants n'avaient pas vocation à être en milieu scolaire comme les autres. Est-ce que c'était une phrase malheureuse ? Est-ce qu'il a raison, malheureusement ?
Pour moi, tous les enfants de France doivent être dans l'école de la République.
Et vous mettez les moyens pour que ce soit le cas ?
Oui, alors, il y aura toujours des centres particuliers, des IME, mais qui doivent être ouverts aussi avec l'école de la République, où les jeunes doivent pouvoir aller quelques heures à l'école, revenir dans leur centre où ils ont des prises en charge spécifiques et avoir école dans ces centres-là. Mais c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il avait d'ailleurs dit qu'il s'était mal exprimé.
D'accord.
Et il est tout à fait de cet avis de dire que tous les enfants doivent être dans l'école de la République.
Tony, c'est la ministre qui a parlé elle-même d'inclusion dans le milieu du jeu vidéo, et c'est vrai qu'on entend souvent des développeurs parler de la volonté que le jeu vidéo soit accessible à tout le monde. On a même vu des grands éditeurs, je pense à Nintendo, qui avaient même développé des accessoires spécifiques pour essayer d'accompagner.
Xbox, plus dernièrement aussi.
Xbox aussi récemment, ouais. Du coup, parle-nous un peu de ça. Comment est-ce que le jeu vidéo est rendu plus accessible ?
Il est rendu plus accessible puisque bah, techniquement, on va partir du principe qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran. Donc déjà, il n'y a pas de jugement tout de suite. Et après, sur un second temps, on va dire au niveau de l'accessibilité aujourd'hui, bah, nous, par exemple, on a des actions de terrain qui vont dans ce sens-là. On va même promulguer beaucoup de choses pendant l'événement Battle for, puisque tout le week-end, on a des développeurs de jeux qui viennent parler de ça, on a des personnes qui sont spécialisées en tout ce qui est handicap invisible, qui vont venir parler de vraiment de ces thématiques, de montrer toutes les statistiques qui tournent autour de ça et de vraiment creuser les sujets et toutes les questions qui ont besoin de réponses par rapport à ça. Bah, on a des personnes qui sont spécialisées dans le jeu vidéo, sur l'accessibilité, des sportifs même de haut niveau qui viennent répondre à travers une table ronde. J'ai vu passer dans le chat qu'il y avait Monsieur Gizmo, donc le responsable de la TV de la TTEC qui est là, qui sera présent et qui viendra parler de cette thématique-là sur le week-end, sur une des tables rondes. Et que bah, aujourd'hui, comment est-ce qu'on le met? Tout simplement en poussant. Et nous, de notre côté, comment est-ce qu'on fait? On essaye de le pousser dans ce sens-là, en essayant de faire des actions qui font que bah, on nous remarque et on pousse cette inclusion à aller travailler, tout simplement pour aller travailler avec les éditeurs, aller travailler avec des développeurs, aller travailler avec des personnes qui vont permettre tout simplement, et on va dire qu'on est un peu leur vitrine de visibilité à ce moment-là, ouais. Parce que bah, on sait que les éditeurs ont un peu de mal à aller sur ces thématiques-là spécifiquement, parce qu'il n'y a pas encore tous les codes, il n'y a pas encore tout qui est vraiment bien accepté par rapport à tout ça, et que bah, l'objectif, il est vraiment pour nous d'être une vitrine côté Battle for, que ce soit sur nos actions de terrain, et je le répète, parce qu'il n'y a pas que l'événement, et aussi sur l'événement qu'on fait, parce que c'est notre événement national, nous, bah, tout simplement pour montrer tout ce qui se fait, et éventuellement essayer de creuser avec le temps pour aller travailler directement avec les écoles et autres, choses sur ce sont les thématiques sur lesquelles on travaille aujourd'hui.
Epsilon, Sandoz, vous avez une responsable politique sur le plateau. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour les personnes qui créent sur Internet, des créateurs de contenu, d'être face à du politique. Vous avez conscience que vous allez lever de l'argent pour soutenir une cause, celle du handicap. Est-ce que vous pensez que le pouvoir politique doit aussi se saisir du truc, que ça ne doit pas être laissé à la société civile? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à Madame la Ministre, vous qui allez œuvrer pour du coup, le handicap cette semaine?
Bien évidemment, l'acceptilone. Comment c'est?
Non, elle est chiante, ma question, je sais, mais si vous voulez en profiter, si vous aviez un message à faire passer au paysage politique dans son ensemble, pas nécessairement à Madame la Ministre, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire?
Donnez-nous un coup de main. Vraiment, pour des associations comme le Battle for, etc., c'est le moment de donner de votre aussi, pour que ce soit au niveau humain ou au niveau financier, etc., pour qu'on puisse justement mettre ce genre d'action, pourquoi pas. Plusieurs fois dans l'année, ou j'en sais rien, pour venir en aide à des associations. C'est...
Donc plus régulièrement qu'une
fois. Plus régulièrement, ouais. Donc ça serait une très bonne idée.
Epsilon ?
Ben.
Ouais. Non, t'es pas obligé d'avoir un message à faire passer, hein. C'est déjà un très beau message que tu vas faire passer tout le week-end.
Non, ben, je vois, je lis le chat en même temps et je pense qu'il y a d'autres questions à poser.
Bah oui, parce que, évidemment.
Je vois parler de.
Moi, c'était important pour moi qu'on parle de handicap à l'occasion du Battle for, et c'était important d'interroger le pouvoir politique sur ce sujet. Je reviens là-dessus, Madame Darrieussecq. Vous vous doutez bien que quand on a annoncé votre présence sur ce plateau, on a reçu, je vous laisse imaginer, beaucoup de messages condamnant votre présence et l'action du gouvernement en général sur la question de la réforme des retraites. Est-ce qu'on est encore dans la séquence de la réforme des retraites, ou est-ce que vous voulez passer à autre chose? Sachant que les gens ne veulent pas passer à autre chose, c'est ça en fait ma question.
Écoutez, moi,
vous le comprenez?
Oui, moi je comprends tout. Je comprends que aussi, moi je suis inquiète des jeunes gens que j'ai devant moi, de savoir quelle retraite ils auront. Voilà, ça m'inquiète.
Oui, eux aussi.
Moi, voyez, à l'âge que j'ai, je ne suis pas très inquiète. Parce que je vais, j'y suis normalement, je devrais y être en plein. Mais je voudrais savoir quels équilibres on va trouver. Si on continue dans le même système, eh bien, il faut que nous soyons dans des équilibres. C'est un peu ça que nous avons essayé de porter. Après, que ce ne soit pas accepté, que la méthode...
Disons que la réponse apportée n'est pas satisfaisante aux yeux de beaucoup de manifestants qui pensent qu'il aurait pu être possible d'aller financer les retraites autrement qu'en demandant aux gens de travailler plus. Vous le comprenez?
Je comprends tout. Je ne sais pas comment on fait, mais je comprends tout. Par contre, ce que j'ai beaucoup entendu, et ça m'a beaucoup marqué, et je pense que c'est ça qui est important, c'est de parler du travail, de la qualité du travail, du travail des seniors, du travail des jeunes aussi, de la pénibilité. de ces sujets-là. Moi, je crois que c'est de ça dont il faut s'emparer avec puissance. Parce que de l'évolution aussi dans la vie.
Et de la rémunération.
Du travail, de la rémunération. Voilà, c'est, moi, il me semble que j'ai beaucoup entendu parler, j'ai plus entendu parler de travail que de retraite dans cette affaire.
Et, c'est vrai que le dossier a été placé sur la table.
Et je pense que c'est ça dont il faut qu'on s'empare avec vigueur.
C'est ce qu'a annoncé le président de la République, sa volonté de réouvrir des discussions avec les partenaires sociaux pour parler notamment du travail, de ses conditions, de sa rémunération, de la répartition de la valeur, etc. C'est la rue qui a réussi à obtenir ça de la part du gouvernement, de bouger sur ce sujet-là ? Ah, que ça n'avait pas l'air d'être au cœur des préoccupations du gouvernement avant que les manifestants.
Il y avait des projets de, faire une loi travail, mais je crois vraiment que ça, c'est des pour moi, ça me paraît absolument essentiel. Parce que les choses évoluent, les outils évoluent, les modes de fonctionnement de la société évoluent aussi. Il faut tenir compte de tout cela. Et je crois que ça, c'est une vraie réflexion de société puissante, forte, et qu'il faut que l'on, dans laquelle il faut que l'on on soit ensemble pour avancer. Vraiment.
Vous venez du MoDem, Geneviève Darrieussecq. Oui. Vous venez du MoDem qui fait partie de la majorité avec Renaissance et avec Agir et Horizon. Vous venez du MoDem et le leader du MoDem, François Bayrou, a jugé en début de semaine qu'une autre réforme, je cite, aurait été possible. C'était une erreur de faire cette réforme de cette manière-là, à ce moment-là, dans ce calendrier ?
Je ne sais pas. Moi, vous savez... Je commence à avoir de la bouteille. Il y a eu une réforme en 2010, il y a eu une réforme en 2014.
Les conditions
n'étaient
pas tout à fait les mêmes.
Les sujets étaient quand même un peu les mêmes. C'était d'équilibrer notre système de retraite.
Pas aussi urgemment.
Et surtout, ce que dit François Bayrou de façon très juste, et je suis au MoDem, j'en viens, mais j'y suis, de façon très juste, c'est que ce que l'on n'a pas assez porté, c'est le grave, grave déficit qui existe aujourd'hui sur notre système de retraite, puisque il y a dès aujourd'hui 30 milliards qui est portés par l'État. Pour équilibrer les dépenses, donc il n'est pas équilibré aujourd'hui. Donc moi, je crois
il a été l'année dernière, mais le déficit arrive.
Non, il n'est pas équilibré. Cette responsabilité,
grâce à l'État,
c'est de le dire. Voilà, il est équilibré grâce à l'État, et on ne peut pas. Donc c'est dès maintenant que le problème était important. Donc voilà. Après, moi, je comprends, hein, je comprends les crispations, mais j'ai quand même entendu des choses qui m'ont fait du mal.
Vous pensez à quoi ?
Je pense, par exemple, le sentiment que le travail, c'était la mort, qu'on partait, qu'on allait. Voilà.
Parce que ça l'est pour beaucoup de Français.
Je pense que
le travail peut être une souffrance.
Oui, mais c'est une souffrance pour certains, c'est une réalité, mais c'est sur ça qu'il faut travailler. Franchement, c'est sur ça qu'il faut travailler. Comment améliorer ces choses-là pour que ce ne soit pas... Moi, franchement, je le pense très sincèrement. C'est là-dessus qu'on a vraiment un vrai travail de fond à réaliser. Comment, quand on a un travail pénible, on peut finir sa carrière dans quelque chose de beaucoup moins pénible, avec de la formation, parce que tout le monde a les capacités d'évoluer dans sa carrière, dans sa vie. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est intéressant et important. Enfin, tout est intéressant à porter, mais je voudrais vraiment qu'on
Merci, merci Madame la Ministre. Dernière question pour vous deux, c'est vous les stars du coup de ce week-end, Sandoz, Epsilon, on vous retrouve du coup sur Twitch tout au long du week-end. Un mot à faire passer pour inciter les gens à faire un max de dons ?
Venez nous voir en live.
Ouais.
Suivez Battlefort.
Ouais.
Et on va tout donner pour...
Trop bien, merci
on
Sandoz.
Tout bon,
c'est tout pareil, Epsilon. Suivez la chaîne du Battle 4 parce qu'il y aura plein de choses.
Il y aura beaucoup d'inclusion. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Il va se passer plein de trucs, ouais. Ça va aussi parler de handicap, il n'y aura pas que du gaming.
Et... Ouais. Pour revenir un peu sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre un peu plus le Battle 4 ?
Vas-y.
Il faut savoir qu'on a fait mettre en place un sous-titrage donc de l'intégralité de l'événement.
Oh, trop bien.
C'est instantané.
Ah, c'est
C'est-à-dire que quand l'animateur va parler ou n'importe quelle personne qui sort le micro, on aura un sous-titrage instantané. C'est quelque chose sur lequel
on travaille.
C'est une extension Twitch qui existe aujourd'hui.
Ça m'intéresse pour Backseat, on en reparle.
Que lequel on a beaucoup travaillé, qu'on a vérifié. Et c'est grâce à un de nos streamers, puisqu'on l'a découvert grâce donc, à Quentin de la Cantine, streamer sur Twitch.
Trop bien.
Et très très proche de ça, et qui du coup nous a aidé donc, à voir et à trouver ça. Et il faut savoir aussi que l'intégralité de nos tables rondes seront traduites en LSF.
Ok, trop cool. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les cinq d'être venus nous parler du Battle First. Un applaudissement. Je vais vous laisser quitter le plateau. Merci beaucoup à vous d'être venus parler de ce bel événement. Merci beaucoup. On va enchaîner, chers amis, on va continuer. Donc voilà, on voulait commencer cette émission Backseat en parlant de ce bel événement, le Battle 4, donc qui va avoir lieu tout le week-end. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. N'hésitez pas à kiffer tout le week-end. On va enchaîner avec... est-ce qu'on met un jingle maintenant? Ouais, vas-y, mets un jingle actu de la semaine, c'est parti. Venez vous installer. Venez vous installer, incroyable. On vous met tous du même côté ou pas? Je me rends pas compte, j'en sais rien, je sais plus. Comment on fait?
C'est ça qu'on nous...
Oui, tous du même côté. Ah oui, c'est à la pause qu'on change.
Eh oui.
Incroyable. Chers amis, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur Backseat. Bonjour à vous qui nous regardez sur Twitch. Ça fait plaisir de vous voir. Bienvenue à vous qui nous regardez sur YouTube en replay. Bonjour à vous qui nous écoutez en podcast. Cette semaine, on va continuer à parler de politique avec les meilleurs et les plus forts. On est avec Malek. Salut Malek.
Salut Jean.
Comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Bon, écoute, ça roule. T'es chroniqueur, t'es conseiller en communication politique. Voilà quoi.
Ouais.
Et c'est cool de te retrouver. On est avec Antoine Bristiel. Comment ça va?
Eh ben ça va très bien, Jean.
Antoine, doctorant en sciences politiques, directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès.
Tout à fait.
Ça fait plaisir que tu sois là. Et on est avec Latifa aussi cette semaine. Salut Latifa.
Oui, salut Jean.
Bienvenue, c'est ta première sur Backseat. On peut l'applaudir s'il vous plaît, Latifa. Tu es ancienne directrice du Bondy Blog et tu es l'actuelle présidente du mouvement qui s'appelle Le Mouvement.
Exactement.
Raconte-nous, c'est un mouvement, c'est quoi?
C'est une organisation de mobilisation citoyenne, donc on fédère sur différentes thématiques sociales, féministes, écologiques, antiracistes, etc. Les citoyens pour essayer de faire pression sur les décideurs et de faire bouger les lignes un peu.
Ok, d'accord. Latifa, première fois que tu viens faire de la chroniquerie sur Backseat, ça fait plaisir.
Ouais,
merci à toi d'avoir accepté. On va rentrer dans le dur du sujet, hein, les copains, parce que là, on s'est pas fait chier politiquement ces derniers jours. Depuis la dernière émission Backseat, il s'est passé des trucs. Genre, par exemple, une décision du Conseil constitutionnel.
T'es sûr de ça?
Ouais, deux, trois. Une décision du Conseil constitutionnel qui valide l'essentiel de la réforme, on va en parler. La réforme des retraites, hein, El Famoso. Une allocution du président de la République sur Twitch, lundi. Pour dire des trucs.
En exclusivité sur Twitch
d'ailleurs. Non, j'ai autorisé les autres médias à la diffuser aussi. C'est important. Donc voilà, on commence direct la décision du Conseil constitutionnel. Je le disais, le Conseil constitutionnel donc a validé la réforme après moult tractations. Même moi, je me suis emballé le vendredi en disant, vas-y, tu sais quoi, il y a moyen qu'ils censurent et tout, ce serait marrant, nouvelle jurisprudence et tout. Pas du tout. On s'y attendait, fallait pas s'y attendre. Qu'est-ce que vous en pensez, Malek?
Je t'ai suivi sur ton prono, hein, vendredi.
Ah, toi aussi, t'y as cru. Hein.
J'y ai cru, je vais pas mentir. Ça pose une vraie question sur... je suis désolé, mais sur le rôle du Conseil constitutionnel, sur est-ce que du coup, est-ce qu'il faut pas refermer cette maison de sages
C'est-à-dire parce que la décision ne peut pas réformer pas, supprimer
les pattes de la République, tu vois.
Ah bah on va en parler d'ailleurs, quand on préparait l'émission, on parlait, je te sens bien Malek, on parlait de ça justement, la composition du Conseil constitutionnel a soulevé beaucoup de commentaires, de discussions, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question la semaine dernière, c'est qui ces neuf sages, ils sont nommés par qui, oulala mais ils viennent du politique, qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc. C'est un truc que l'on perçoit en ce moment dans l'opinion publique, le questionnement sur la composition du Conseil constitutionnel.
Bah en fait on a, je le dis très souvent, on a tous des gens autour de nous qui n'étaient pas très au fait de ce qu'était une motion de censure, le Conseil constitutionnel, etc., une potentielle censure. Et on a tous des potes qui s'y sont plus ou moins intéressés et qui y ont cru et qui se sont dit « Ok, il y a quand même des socles, il y a des garde-fous dans cette histoire et il faut y croire. » Et il y a des espoirs qui sont tombés. Même moi qui suis dedans, je vais dire la vérité, même le mien est tombé. Et ça pose une vraie question sur l'indépendance en fait, du Conseil constitutionnel, parce que oui, nommé par le politique, ben oui.
Oui, d'accord.
Oui.
On rappelle comment sont, vas-y, fais-le, comment
alors,
sont nommés les membres du Conseil.
Le président de la République, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, elle ne l'a pas encore fait, mais elle le fera bientôt, nomment des membres au Conseil constitutionnel. Et il y a des voix qui sont en train d'appeler à la réforme du Conseil constitutionnel et pas forcément des affreux gauchistes. On parle encore une fois du groupe Liot, encore eux. Ils font une proposition que je trouve intéressante qui est de soumettre la validation des candidatures au Conseil constitutionnel aux deux tiers des parlementaires Et que ce soit sur des compétences juridiques.
Aujourd'hui, ouais, depuis 2008, ils sont auditionnés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais il n'y a pas de vote. Il y a pas de... Parce que ça risque de renverser le problème et de créer du coup un conseil constitutionnel soumis au pouvoir législatif qui peut le saisir. Donc,
Oui.
Antoine, l'opinion publique, on a vu des mouvements de ce côté-là. Comment est-ce qu'elle perçoit cette décision du conseil?
Je pense pas qu'il y avait une attente qui était majeure par rapport à la décision du conseil.
Ah ouais.
Nous, on est un peu des geeks de la politique, hein, si j'ai envie de, on peut le dire.
Non, oui, non, complètement. On est des aliens. Non, mais c'est vrai.
Du coup, on se demandait ce qui allait se passer avec le Conseil constitutionnel, mais je pense pas que quand tu regardais les différentes enquêtes d'opinion, il y a rien qui.
Ouais, remonte ton micro, ouais. Pardon.
Terrible.
Attends, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un vote. Les gens, ils disent dans le chat qu'il y a un vote, mais ils votent pas. Les commissions votent. Ah oui, si. Attends. Double proposition intéressante. Non, j'ai un doute. Je sais plus. Merde, hey, les geeks encore plus geeks que nous. Excuse-moi, je t'ai coupé, parce que du coup, si j'ai dit une connerie, il faut me le dire. Excuse-moi, Antoine, continue.
Oui, non, il n'y avait pas une attente qui était forte. Hein. Tout le monde, la plupart des gens s'attendaient à ce que la décision valide la réforme. Et par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que suite à cette décision du Conseil constitutionnel, j'ai ramené des chiffres, tu as 35% des gens qui disent « la mobilisation doit s'arrêter ». Le reste, du coup...
Un tiers, quand même.
Un tiers qui dit « la mobilisation doit s'arrêter ». Mais c'est à peu près le même niveau qu'avant. On voyait avant.
Ok, d'accord.
Et par contre, tu as 45% de la population qui te dit « la mobilisation doit se durcir avec des nouvelles formes d'action ». Et ça, je pense qu'on va en reparler après.
Ah bah, carrément,
ouais. On a vu. Mais tu vois, il s'est quand même passé quelque chose en termes de « on n'en attendait rien, effectivement, il s'est rien passé ».
On est quand même déçus. Ouais.
On est quand même déçus, mais okay. Derrière, c'est peut-être davantage d'ailleurs la prise de parole de Macron qui a suscité un peu. Mais bon, ça, on va en reparler.
Oh là, oui.
Donc, que la décision du Conseil en elle-même.
Bon, le Conseil constitutionnel valide un dispositif qu'il reconnaît pourtant comme étant inhabituel, pour citer les mots des sages, c'est-à-dire. Projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, donc un texte que t'es pas censé adopter autrement que pour faire des trucs relativement techniques, on va pas se mentir. Utilisation de l'article 47.1, donc qui réduit le temps des débats. Utilisation de l'article 49.3 qui permet de se passer de vote. Utilisation même du vote bloqué. Tout ça, ce sont des trucs constitutionnels. Donc le Conseil constitutionnel a dit, voilà. voilà, c'est constitutionnel. Ça pose quand même des questions, Latifa.
Ouais, qu'est-ce qu'on fait on en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'on fait un peu de l'esprit de la Constitution? Est-ce qu'il est pas garant en fait de
alors explique-nous
aussi de ça, de se dire est-ce qu'on peut vraiment t'as parlé des articles qui étaient utilisés, le fait qu'on utilise un projet de loi rectificatif de la loi de financement de la sécurité sociale, donc qui limitait aussi le temps de débat, donc ça veut dire que là on pouvait débattre que 20 jours seulement de ce projet de loi devant l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour un projet de loi comme celui-là, et est-ce que c'est justifié? Donc Et de la même manière, en fait, on fait un 49-3 parce qu'on sait qu'on va pas avoir de majorité, donc il n'y a pas besoin, je pense, pour le coup, d'être de fin juriste et de fin limier pour se rendre compte que quand même
c'est pas dingue,
c'est pas tout à fait sur un plan démocratique. On a quand même 2-3 trucs à dire, je crois, et donc du coup, c'est là où en fait, pour moi, le Conseil constitutionnel doit aussi intervenir. Sur, alors peut-être qu'il y a plein de juristes qui vont avoir leur poil se hérisser quand je dis ça, et que ça doit peut-être aussi aller au-delà. Voilà, de contrôler un peu cet esprit-là et de prendre la procédure dans son entièreté, et au-delà de l'aspect purement juridique et purement technique, de se dire que l'aspect politique doit être un peu jugulé, quoi.
Mais en vrai, moi je défends le truc parce que évidemment, c'est normal, hein, le Conseil constitutionnel a constaté que la Constitution permettait ça. Donc en fait, la crise politique est rendue possible par notre Constitution, donc notre Constitution allait à chier. C'est un peu la réflexion. Mais quand on parle d'esprit de la Constitution, l'esprit de la Constitution de la Ve République, c'était quand même le pouvoir à la majorité à l'Assemblée nationale. C'était ça l'idée. Or, il n'y a pas de majorité en ce moment.
C'est ça.
Et Macron a quand même le pouvoir. Donc en fait, moi je suis d'accord pour dire que même la Ve République est dévoyée. Pourtant, Dieu sait que je suis pas un grand défenseur de la Ve, on va pas se mentir, mais... Même Lina a rediffusé des trucs de Debré à l'époque, etc., qui disait, mais enfin, c'est la majorité qui décide, et puis s'il y a besoin, on retourne au peuple, soit par dissolution, soit par référendum et tout. Même ça, on n'y est plus. C'est quand même fou. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord pour dire, putain, même l'esprit est pas respecté, quoi.
La décision du Conseil constitutionnel, elle est encore plus à contester, peut-être, parce qu'on a, on a un petit visuel avec la composition du Conseil constitutionnel. On a deux membres, dont Laurent Fabius, qui ont été nommés par le PS, donc par Claude Bartolone et François Hollande à l'époque.
Ouais.
Et ensuite, on a quatre membres qui ont été nommés par la majorité d'Emmanuel Macron, soit par Richard Ferrand, soit par Emmanuel Macron himself, ou par Richard Ferrand, oui, je l'ai dit. Et de l'autre côté, on a trois membres qui ont été nommés par le président du Sénat, Gérard Larcher. C'est petit rond de couleur.
Ça indique quoi? Ça indique par qui ils ont été nommés, c'est ça?
Bah oui.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais.
Oui, oui, c'est ça. Les et en fait, moi, ça peut pas, moi je ne peux pas occulter ces petits ronds dans la lecture de la décision.
C'est-à-dire que ça les marque. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un marquage.
Et puis, je suis désolé. À un moment, moi, j'ai commencé par une aventure militante. On m'a appris le rapport de force. Et ben, je suis désolé. Je regarde le nombre de partis, l'un contre l'autre. Je vois 4 membres nommés par LREM, 3 nommés par LR et 2 nommés par le PS. Et je me pose des questions.
Je précise quand même qu'ils sont nommés, ils ne peuvent pas être renommés après leur mandat, hein, c'est un mandat unique, donc justement pour ne pas dépendre d'une renomination et tout, donc c'est une garantie d'indépendance qui a son importance, qui à mon avis faudra conserver. Je précise aussi que le Conseil constitutionnel a déjà par le passé eu le courage de s'opposer à des gouvernements, y compris ceux qui les avaient nommés. On a vu des décisions du Conseil constitutionnel contre la loi Hadopi, on a vu la décision du Conseil constitutionnel contre la loi sécurité globale, c'est sur le fait de filmer les flics, on a vu le Conseil constitutionnel censurer la loi Avia sur Internet, là, sur la lutte contre la haine en ligne. Voilà, c'est pas, enfin, je voudrais pas laisser croire que le Conseil constitutionnel se fait marcher sur la tronche par l'exécutif. Disons que quand il s'y met, il peut faire preuve de courage, oui. Et que peut-être que beaucoup de gens attendaient qu'il fasse preuve d'un peu d'innovation et de courage vendredi dernier.
Mais Antoine. Ce qui est étonnant, quand tu regardes un peu la décision qui a été rendue et quand tu regardes un peu l'argumentaire, c'est ce que soulevait Dominique Rousseau, qui est un constitutionnaliste justement, en disant que tout indiquerait dans les premières lignes de l'avis que les principes de sincérité, de clarté du débat public n'ont pas été, du débat parlementaire n'ont pas été respectés avec ce projet de loi, notamment parce que les parlementaires n'avaient pas les bonnes informations, on en avait déjà parlé ici sur le plateau, et finalement, il remet quand même pas en cause au final le texte en lui-même et la façon dont les débats se sont déroulés. Donc ça, c'est un peu étonnant quand tu regardes quand même la décision en elle-même.
Il y a le sujet de la promulgation dans la nuit de la loi. Emmanuel Macron a promulgué la loi. Donc je rappelle que la promulgation, c'est la toute dernière étape. C'est le moment où le président de la République met sa signature en bas du document pour certifier que la procédure a été suivie jusqu'au bout et tout. C'est pas censé être un acte politique particulier. En réalité, il promulgue des trucs toute la journée.
T'es pressé de passer à autre chose. Hein.
Voilà, justement. Sauf que là, une interprétation politique en est faite parce que le président de la République a promulgué la loi immédiatement après avoir eu connaissance de la décision du Conseil constitutionnel. Et le journal officiel, donc que personne ne lit, tout le monde s'en branle, mais c'est normal, il paraît à 4 heures du matin comme tous les jours et il publie, c'est le journal officiel, hein, c'est chiant à mourir, il publie les actes de la nuit, tous compris, hein, les décrets, les lois, les machins. Et donc voilà, il y a eu une micro-polémique sur promulguer dans la nuit, polémique ou pas polémique ? Moi je dis on s'en branle, c'est pas important.
On s'en tape ?
Ouais, okay. Franchement, ça.
D'accord, ok.
En fait, c'est plutôt la temporalité, le timing, enfin pourquoi le lendemain dans l'immédiat, pour passer à autre chose, comme le dit Antoine, oui, mais. Et en fait, je pense que la séquence, c'était ça. C'était les gars, venez, on promulgue, le truc est publié, on fait la petite allocution lundi et on ouvre la séquence d'après. Ouais, mais c'est pas comme ça la vie, mon pote.
Oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, l'allocution, parlons-en, l'allocution d'Emmanuel Macron, donc, en direct à la télévision. Alors, moi, elle m'a surprise. En tout cas, son début d'allocution m'a surpris parce que j'avais suivi, j'avais diffusé, j'avais commenté son interview d'il y a 3 semaines maintenant. J'ai l'impression que tout le monde lui a dit elle était à chier ton interview. Vraiment, hein, le truc où tu dis coûte que pas coûte que coûte, mais vaille que vaille ou non, attends, qu'est-ce qu'il a dit à la fin?
Impossible n'est pas français.
Non, on va réformer, on va continuer à réformer au forceps ou je sais pas.
Ah non, attends.
Quel.
Oh, je l'ai.
Le chat, vous allez l'avoir.
À marche forcée,
voilà. L'espèce de flegme qu'il avait pour dire mais il n'y a pas de crise démocratique, je veux dire tout va bien, etc. Les violences, ni faction, etc. Renvoyer dos à dos la violence des policiers et tout. Ce qui me fait dire ça, c'est que le début de son allocution, je l'ai trouvé très straightforward dans le côté ça va pas. Cette réforme a soulevé des problèmes sur l'injustice. Il a utilisé le mot injuste en disant le travail est injuste, etc. Cette réforme est-elle acceptée? De toute évidence, non. Donc j'ai envie de dire, il enfonce des portes ouvertes, mais rien que le simple fait qu'il le fait, j'ai commencé la discussion en disant tiens, c'est intéressant, il nous emmène où avec ça? Bon, et finalement, il nous emmène sur j'avais raison depuis le début, regardez la suite du projet, en fait, on va continuer. Bon.
Ouais, et puis moi je l'ai presque mal pris de dire vous le vouliez pas, je l'ai fait quand même. Ouais, on a compris en fait, ça fait des semaines qu'on veut pas. Et en plus il nous le redit au tout début, j'étais là non mais c'est de la provocation quoi. Enfin oui, on sait.
Du coup toi tu l'as vu comme une provocation là, Tiffa?
Le début ouais, ça m'a agacé. Enfin c'est des choses qu'on avait déjà entendues et ouais c'était vraiment ça. Il avait comme
c'est-à-dire que c'est encore pire.
Comme
il en a conscience
de répéter. Ouais, je l'ai fait. Enfin c'est bon ouais, je l'ai fait. Vous étiez pas d'accord. Oui, on a compris.
Dont acte. Antoine.
Je pense qu'il y a deux choses qui étaient assez intéressantes. La première, c'est quand tu vois qu'il dit qu'il faut faire de la concertation, renouer le dialogue avec les partenaires sociaux. Quand tu vois que les partenaires sociaux, justement, les syndicats, ont essayé d'aller taper à la porte de l'Élysée pendant toute la séquence et qu'ils n'ont pas été reçus, bon, je pense qu'il y a un peu de quoi être énervé dans leur cadre. Et la deuxième chose, c'est que quand tu regardes la perception qu'ont eu les Français de l'allocution.
Alors, ils en ont pensé quoi?
Ah bah c'était 78% qui n'ont pas été convaincus par la locution. C'est le pire niveau qu'il ait fait depuis 2017. Donc,
Non, alors pour le coup, non, mais pour le coup, vraie question. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de rupture tel que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, c'est dead, c'est mort, c'est ciao bye bye. Je dis ça aussi sur, en constatant que le soir de la locution, une initiative a été lancée sur Twitter par l'association Attaque, proposant aux Français d'aller taper sur des casseroles pour faire du bruit pendant la locution, manière de lui dire on veut même pas t'écouter, etc. Et en fait, le mouvement des casseroles a continué. Et justement, il est parti en tournée, il est allé en Alsace, il était aussi dans l'Hérault, etc. Et en fait, c'est casserole sur casserole sur casserole. C'est intéressant la symbolique de la casserole, ce côté, mais faire, en fait, on veut même plus t'entendre. Il y a une espèce de rupture qui s'est faite.
On l'avait dit le soir de l'annonce du 49-3 par Elisabeth Borne. J'avais dit, attention, je pense qu'on arrive peut-être à un petit point de rupture et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et là, en fait, bah, on ne fait qu'avancer vers ce point de rupture-là. Lundi, on nous a parlé d'apaisement. Avec un discours, dans l'intention qui était plus de la provocation que de l'apaisement. Et puis surtout, on a des petits offs qui sont sortis. On a appris que Emmanuel Macron, avant d'enregistrer son allocution, a dit à ses proches, il faut être dur avec ceux qui veulent nous crever la paillasse. Et il y a un député LREM qui l'a croisé tout à l'heure dans l'Hérault, Patrick Vignal, qui lui a dit, mais je suis prêt à faire la guerre, président. Prêt à leur faire la guerre.
Mais à qui? À qui il parle?
À Emmanuel Macron.
Non, mais il parle de qui quand il dit ceux qui veulent nous, je sais pas quoi là.
Eh ben, c'est la question que je me pose, Jean.
Ceux qui passent dans le coin.
Mais sauf qu'en fait, quand on est président de la République, on n'a pas à faire la guerre à qui que ce soit, quoi. Et encore moins en français.
Au contraire.
Quoi.
Voilà. C'est ça. Non, mais bien au contraire. Latifa. Comment t'analyses toi la séquence là qui vient de s'ouvrir depuis lundi, qui est un peu lunaire, ses déplacements et tout?
Ouais, c'est, enfin, il essaye en fait, bah, comme il le fait depuis le début, un peu en bulldozer, de dire non, mais moi je vais continuer, on va aller voir les Français. Qu'il a dit aujourd'hui encore, il va falloir expliquer encore la réforme des retraites, en parler, faire preuve de pédagogie. Alors que, et là, on va laisser de côté l'aspect un peu méprisant, quoi. Je pense que les gens, ils ont quand même plutôt compris de quoi il s'agissait, qu'il n'y a pas besoin d'expliquer encore et encore. Et ouais, il essaie un peu de faire un marche forcée, quoi. Et puis même pour la fin de l'allocution, les mesures qu'il a données, c'est presque les procédés rhétoriques. Il dit des choses avec. En fait, on ne peut pas ne pas être d'accord quand il dit « d'ici à fin 2024, on va désengorger les urgences ». Qui n'est pas d'accord avec ça, en fait? Qui va dire « alors, quelle horrible mesure ». Mais fait, comment on fait après? Comment ça se passe? Et plein de choses comme ça. Vous n'allez pas reconnaître votre école à la rentrée 2023.
Et le soleil, c'est mieux que la pluie aussi.
Son summum, son spécial, « libérons les énergies ».
Oui, qui n'a jamais rien voulu dire. C'est assez extraordinaire.
Il aime trop le dire. J'ai toujours pas compris.
Pas très bien compris.
En termes d'énergie, c'est quand même assez rigolo que la CGT coupe le courant à chaque fois qu'il est dans un endroit. Mais il y avait un économiste sur Twitter qui avait mis que, en gros, c'était un nouvel Interville maintenant, que chaque village dans lequel il allait trouvait une nouvelle forme de protestation, une nouvelle forme d'opposition. Et là, sur un point un peu plus sérieux, on voit quand même que c'est aussi une sorte de bascule dans le mouvement d'opposition qu'il y a désormais. Enfin, c'était les syndicats qui ont été à la tête de la contestation pendant toute la période. Et là, c'est en train d'être des formes d'auto-organisation de la protestation. Ouais. Et ça rappelle quand même davantage les Gilets jaunes que ce que l'on avait vu pendant toute la séquence des retraites, où c'était les syndicats, des manifs classiques et une opposition beaucoup plus...
Non, mais c'est vrai, vous voyez les images là, qu'on diffuse derrière, vous voyez bien qu'il y a peu de drapeaux. Il y en a quelques-uns de la France insoumise, mais en réalité, il y a assez peu de drapeaux d'ordre syndicaux. Ce ne sont d'ailleurs pas des rassemblements à l'initiative des organisations syndicales. Justement, pour parler des organisations syndicales, la suite du programme, c'est 1er mai, fête du travail, journée traditionnelle de mobilisation des syndicats, mais là, cette année, elle est promise pour avoir une teinte particulière autour de la réforme des retraites et de la crise démocratique. Laurent Berger, avant de laisser sa place, on va en parler.
Malédiction Baxit.
La malédiction Baxit, on est dessus. Avant de laisser sa place à la tête de CFDT, il a dit qu'il avait appelé à casser la baraque. Alors, ce qui fait un peu pitié dans l'expression, parce que c'est un peu boomer, mais dans les mots, quand t'es responsable du premier syndicat de France, etc., c'est... Là aussi, le point de rupture, il est vénère quand même.
Dans la bouche de Laurent Berger, déjà.
Oui, c'est ça, dans la bouche de Laurent Berger, quoi. C'est quand même... Antoine.
C'est assez étonnant quand même. Enfin, c'est pas de leur faute, c'était prévu comme ça, mais que les principaux leaders, que ce soit Philippe Martinez d'un côté et Laurent Berger, partent en plein milieu de... Enfin, pas en plein milieu, mais en tout cas dans cette phase qui était quand même ultra importante pour les syndicats. Donc, à voir comment ça va se passer à la CFDT avec... un nouveau leader.
Donc Laurent Berger, donc, qui a annoncé qu'il laisserait sa place le 21 juin prochain, comme c'était prévu, parce qu'il avait déjà annoncé apparemment, à Marie-Lise Léon, qui est actuellement numéro 2 du syndicat. Ouais. Donc ce n'est pas un départ en claquant la porte sur un échec, sur une mise en minorité, c'est un départ prévu, organisé. Je pense même, parce que moi je me suis dit, putain, c'est vachement tôt d'annoncer ça en plein mouvement et tout. En fait, je pense qu'il justement, il veut la catapulter à l'occasion du 1er mai en disant, mais là, il faut que tu fasses des télés, il faut que tu fasses des caméras, parce que moi je ne suis plus là le 21 juin, donc je te balance maintenant.
Ils ont fait leur première interview. Là ensemble, et puis il dit qu'en fait ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est à ses côtés et qui mène ça à deux, que c'est sa numéro 2 et que voilà, elle va mener ça d'une main de maître. On va avoir deux femmes à la tête des deux principales organisations.
Sophie Binet à la CGT et Marie-Lise Léon à la CFDT.
Bah d'ailleurs, à la CGT, ça s'est bien passé. Enfin, le passage de témoin entre Martinez et Sophie Binet, ça s'est passé sans accroc.
Ouais, il y avait eu Jules sur le plateau la semaine dernière qui nous expliquait que le congrès de la CGT, c'est pas super bien passé, que c'est un peu compliqué, que c'est tendu en interne et tout. Bon, après, c'est usuel, hein, mais... Non, mais c'est... Pour le coup, il a eu des gens de la CGT au téléphone qui lui ont raconté un peu les coulisses et il est venu nous apporter ça sur le plateau la semaine dernière. Latifa, la suite du programme, il y a aussi des parlementaires qui veulent pas lâcher la pression et refuser de passer à autre chose.
Oui, évidemment. Parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme pour tout, en fait. Personne ne sait. J'ai l'impression que là, tout le monde est en train de se réorganiser, de se reconcerter, de savoir dans quel ordre de bataille on se met et comment on fait ça. Mais oui, ça c'est assez évident, quoi.
Il y a donc le référendum d'initiative partagée qui a été déposé par tout un paquet de députés. On attend la décision du Conseil constitue qui va tomber le 3 mai ou le 13 mai, je ne sais plus. Mais un jour. Donc on verra si on ira jusqu'à un référendum d'initiative partagée, mais de toutes les façons, ça prendra beaucoup de temps. Ouais. D'ici là, il y a des discussions en cours pour le dépôt d'une nouvelle motion de censure en lien avec le fameux groupe Liotte à voir. Mais il y a un autre truc qui va arriver et qui, pour moi, est vachement plus intéressant. J'ai retweeté un thread d'un constitutionnaliste sur le sujet sur Twitter qui parlait de cette loi d'abrogation. Je rappelle qu'une loi d'abrogation, c'est rien d'autre qu'une loi qui dit on annule la loi qui a été votée. Enfin voilà, on annule telle loi. C'est ça, une abrogation, c'est pratiquement une motion de rejet, en fait, rétrospective, quoi. Et en fait, c'est très intelligent, cette stratégie, parce que ça va forcer le vote qui n'a pas eu lieu sur l'article 7, le fameux vote qui n'a jamais eu lieu sur les 64 ans. En fait, les députés vont réussir, par une proposition de loi, à forcer le vote sur ce truc-là, qui est en fait beaucoup plus difficile pour la majorité de réunir une majorité de pour que de gens qui s'abstiennent de voter une motion de censure. L'autre truc, c'est que ça va remettre dans l'agenda parlementaire, donc ça va empêcher le Parlement de passer à autre chose, même si le gouvernement en meurt d'envie, et que par ailleurs ça va envoyer le message aux manifestants, aux Français et tout, que tout ce qu'a fait le Parlement peut le défaire. Donc cette réforme des retraites là, elle n'est pas éternelle, en fait. Il suffit d'un vote et en fait c'est terminé, on revient au système d'avant et tout. Donc, à suivre, il y a une vraie guéguerre en ce moment sur est-ce qu'on passe à autre chose, est-ce qu'on passe pas à autre chose, entre les manifestants, tu l'as dit, les syndicats, les manifestants, les partis politiques, etc.
En partant de cette hypothèse, en plus que certains vont évoluer, notamment au sein du groupe LR dans leur vote, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, parce que certains sont retournés en circonscription et parce que la colère ne fait que grandir. Et sur ce qu'on parlait de la suite, je pense que ça va être très très compliqué, pour ne pas dire impossible. En fait, là, Emmanuel Macron va s'entêter avec ses ministres à faire des déplacements ou à les annuler. Et ils vont se manger des concerts de casseroles à chaque fois. Jusqu'à quand? Ça va être...
Il a dit 100 jours, hein. J'ai l'impression que les manifestants, ils ont fait « vas-y, chiche, et, t'es chaud ».
Tout à l'heure, il a répondu à une Française qui appelait à sa démission, il lui a dit qu'il fallait attendre 2027, et qu'il ne démissionnerait jamais. Ah bah, on n'appelle pas à sa démission, enfin voilà, je pense pas que ce soit ça la solution, on demande juste l'abrogation de la loi qui vient d'être votée, ou pas, d'ailleurs, pas votée. Mais qu'allais-je dire? Et puis qu'est-ce que ça va être aussi la stratégie politique pour la suite? Est-ce que ça va être d'agrandir sur sa droite ce que n'a pas réussi à faire Elisabeth Borne?
Alors,
certains parlent même d'un...
Vas-y.
Alors, il y a un petit bruit qui court, c'est qu'il y a un personnage qu'on connaît tous dans la vie publique qui rêverait d'être Premier ministre. Vraiment, il en rêve la nuit, jour et nuit. C'est Nicolas Sarkozy. Et on connaît un petit peu ses relations.
Tu sais que depuis que tu me l'as dit, ça trotte dans ma tête, j'en ai parlé hier.
Ouais,
c'est ce que je suis en mode, mais attends.
J'y ai pensé toute la nuit. Et on connaît ses relations qui sont assez rapprochées avec Emmanuel Macron. Ah oui. Est-ce que ça serait une solution pour composer une majorité avec LR et être tranquille jusqu'en 2027?
Est-ce que lui aurait l'autorité que n'a pas eu Éric Ciotti de faire
péter les mecs?
Non, mais vraiment, ce n'est pas sûr. Hein. Faut faire attention à ça. Hein. C'est pas parce qu'il est issu de la droite républicaine. Aujourd'hui, il y a un groupe minoritaire de la droite républicaine dont on a besoin des votes, que automatiquement, parce que c'est Sarko, ils vont dire oui. Hein. Antoine.
Vous voulez nous faire faire des cauchemars
ou... Tu fais ce que tu veux, hein. Non, mais, quand on préparait l'émission, tu me parlais justement de ces anciens politiques qui veulent revenir.
Non, mais c'est clair. Mais je regardais d'ailleurs t'as le baromètre des cotes de popularité des différents hommes et femmes politiques. Et Nicolas Sarkozy, il est cinquième dans le baromètre des personnalités politiques.
Ah bon, bah c'est donc, bon alors.
Mais justement, en fait, ce qu'ils comprennent pas, et c'est un peu le cas aussi de François Hollande, qui est bien placé dans ces baromètres-là, c'est que, ils sont bien placés parce qu'ils ne parlent pas. Et c'est qu'à partir du moment où ils reviendraient sur le devant de la scène, ça serait à nouveau une catastrophe. Mais je pense qu'ils voient ces chiffres-là, parce que c'est des hommes politiques qui sont fans de ça. Et du coup, ils se disent « Ah mais oui, mais quand même, il y a peut-être une place. Et puis bon, je voulais redevenir président, et puis je n'ai quand même pas pu. Alors bon, ce serait peut-être l'occasion de redevenir Premier ministre. » Non, mais je pense que oui,
Ça me fait penser aux militants qui en pleine campagne te disent je sens qu'il y a une vague là, on sent que les gens sur le terrain et tout, et à chaque fois ils se convainquent eux-mêmes qu'il y a un appel, tu vois,
tu la sens l'odeur de la victoire.
Oui, c'est ça. Tu sais, on le voit pas dans les sondages, non mais ouais. Moi je le vois différemment parce que je sens comment les gens nous parlent et je sens qu'il y a un truc, et tu dis, il y a un truc qui monte, t'es en train de te convaincre tout seul, il y a rien du tout, et c'est un peu ça, je suis d'accord avec toi, le côté arrêter de rêver un retour. En fait, c'est parce que vous êtes plus là que les gens vous aiment bien, parce que machin. Macron, dans les années 2050, tu vois que dans les baromètres, les gens diront ouais, non, j'en sais, on verra bien.
Pas sûr.
Latifa.
En tout cas, si je le croise, moi, je pense pas. Mais...
Latifa, du coup, à quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines?
Pas Sarkozy Premier ministre. Non, j'espère. Non, mais de toute façon, enfin, comme je crois que c'est ce que Macron a dit, que de toute façon, ça. Là, il attend que la contestation passe, en fait. Là, bon, il fait pas vraiment le dos rond parce qu'il va quand même en représentation. Il rencontre les Français. Mais je pense que le 1er mai sera un peu le dernier, dernier tour rendez-vous. De piste. Un peu, ouais, voilà, c'est ça, le dernier grand rendez-vous pour la mobilisation. Mis à part si les Français essaient un peu de réinventer des modes de mobilisation qui soient différents. Faut aussi se dire que voilà, il y a plein de réalités économiques, etc., chez les grévistes, qui contraignent malheureusement à lever un peu le pied. Mais voilà, ouais, c'est pas très optimiste. Désolée.
Oui, je me posais juste une question très rapide. Est-ce que, parce que il y a un niveau de détestation qui est fou chez Emmanuel Macron, je suis en train de me demander, est-ce que Nicolas Sarkozy c'était...
Oui.
C'est la même ou c'est pire?
J'ai l'impression que 2011, Nicolas Sarkozy, c'était un niveau de...
Mais oui, je sais, je me rappelle du salon de l'agriculture, etc., mais je me demande si c'est pas pire aujourd'hui.
Non, enfin... C'est à peu près. Moi, je me méfie toujours. Hein, c'est toujours les gens qui disent ouais, c'est le pire ministre qu'on a jamais eu. À chaque fois, je leur dis putain, mais vous avez juste oublié comment on parlait de son prédécesseur il y a 5 ans, 10 ans.
Ouais, ouais, ouais.
Non, Nicolas Sarkozy.
Ouais, Nicolas Sarkozy, c'était plus. En plus.
À tel point que François Hollande a réussi à le battre, on en est là. Ouais, il y a un moment, les Français étaient prêts à tout, même à Hollande, pour passer la page de Sarkozy, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Chers amis, avant de passer la pause, je vous rappelle que cette émission Backseat, elle est rendue possible par vous. Merci pour vos dons. Merci pour votre soutien à l'émission Backseat. Je vous rappelle que la plateforme Utip a mis la clé sous la porte il y a 2 semaines. On a été obligé donc de changer de plateforme de financement participatif en cours de campagne. C'est pas facile pour nous, on est un peu dans la sauce, même si tous les dons que vous avez faits sont bien allés à Backseat, et ça, soyez rassurés, il n'y a pas eu de perte d'argent, mais on n'est pas encore au bout de l'objectif. Il nous reste encore 100 000 euros à récolter d'ici la fin de la saison pour réussir à financer toutes ces belles émissions. N'hésitez pas à vous rendre sur KissKissBankBank. Voilà, le lien est dans le chat, le lien est en commentaire de cette vidéo sur YouTube et tout. N'hésitez pas à aller faire un don, à participer. Pour l'instant, sur KissKissBankBank, vous ne pouvez faire qu'un don mensuel, un abonnement comme ça s'appelle sur KissKissBankBank pour donner de l'argent tous les mois, et merci à toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Bientôt, on va mettre en place, donc KissKissBankBank est en train de développer l'outil qui va permettre de pouvoir faire des dons ponctuels pour ceux qui veulent juste donner à un moment. On va retravailler les contreparties, etc. On a ouvert pour que vous puissiez venir dans le public ici, physiquement, regarder l'émission, boire des bières et manger des nems. Vous pouvez aller sur WizEvent pour acheter votre place. Merci à toutes les personnes qui le font, ça fait super plaisir de vous voir chaque semaine. Et on est en train de travailler aussi à ouvrir un shop pour vous permettre d'acheter des fringues magnifiques qui soutiennent aussi financièrement l'émission. Donc on est en train de mettre tout ça en place, on a encore besoin de votre soutien. On va marquer une petite pause, et juste après la pause, on va diffuser un best-of de ma chaîne, mais juste après la pause, on se retrouve avec notre invitée politique, la députée de la majorité, Barbara Pompili. C'est parti, la pause. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public. Incroyable, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue.
très heureux de vous retrouver. Merci. N'hésitez pas à faire des doigts pour soutenir Baxéa, l'émission de Jean Lassier. Évidemment, c'est ChatGPT qui vous dit de le faire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à celles et à ceux qui nous suivent. Ouais, mm-hmm. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Sur Twitch, en direct. Bienvenue à vous si vous nous regardez en replay sur YouTube. Et bonjour aussi à vous si vous nous écoutez en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre cette émission. Ça fait trop plaisir de vous avoir. Chers amis, nous allons accueillir, comme chaque jeudi dans Backseat, notre invité politique de la semaine. Il s'agira de la députée de la majorité Barbara Pompili. Mais avant ça, la chronique que vous attendez tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle.
Salut Baxéa.
Comment ça va?
Ça va super. Bah, belle semaine hein, quand même.
Bah ouais.
Vous en avez parlé, hein, la décision du Conseil Constit. Déception. Et en même temps, il y avait des signes avant-coureurs hein, qu'on ne pouvait pas compter sur eux.
Il y a des questions à poser, monsieur conseiller.
Voilà, interprétation de Vinza de la décadence de nos institutions. Alors, actu de la semaine aussi, évidemment, le speech du président lundi, hein, vous en avez parlé. Mais vous n'avez pas relevé une petite phrase qui m'a interpellée. Ah.
À chaque fois, j'ai cherché à libérer les énergies.
Libérer les énergies, mais lesquelles? Les énergies de qui? C'est pas Adona, ça peut être dangereux. En fait, une libération d'énergie incontrôlée. T'sais, en chamanisme, par exemple, c'est hyper dangereux, tu peux déclencher des colonnes de puissance. Ma tante est chamane, bref. Et peut-être, Manu, il aurait pas dû justement jouer à l'apprenti chaman, parce que parfois, ça se retourne contre toi.
On n'en veut pas de la retraite, qu'est-ce que tu comprends?
Ah, c'est bien libéré, là, ouais. Mmh.
Ouais, on entend un petit peu quand même. Hein. Ouais, on n'en veut pas de ta retraite.
Trou du cul,
tout à fait, bien sûr. Clairement, beaucoup d'énergie libérée en Alsace. Hein.
Ah oui.
En fait, Manu, c'est ce monsieur. Ce petit regard de désarroi à la fin. Est-ce que j'ai fait un truc grave? Y en a une autre qui a un peu trop lâché les énergies cette semaine, c'est Marlène. Marlène Schiappa, encore. Je vous explique le bail. Pendant l'affaire Playboy, sa collègue, l'actuelle ministre de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome, a déclaré qu'elle trouvait que c'était pas l'idée du siècle, cette une. Et apparemment, à la suite de ça, Marlène aurait envoyé... en réponse, un SMS rageur à Isabelle contenant cette insulte terrible.
Sérieux ?
N'est qu'un sac à main de seconde main.
C'est tellement,
je trouve ça smart en vrai.
C'est très chiapa.
Mais faut prendre des vacances, Marlène. Ouais. Enfin, la vraie insulte, c'est pas espèce de sac vintage. C'est la vraie insulte, c'est
sac à merde.
Ah oui, évidemment, sac à merde. Bon, bref, eh bien oui, elle est fatiguée, Marlénouche. Elle est si fatiguée qu'elle en a oublié qu'elle était féministe, hein, parce que comparer une femme à un sac à main, est-ce que c'est pas un peu sexiste?
Ouais. C'est vrai, ça.
Ouais. Voilà. Et elle aurait ensuite conclu son message par « Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos !» C'est vraiment vrai. C'est vrai. C'est les propos rapportés par le canard. Donc,
oh,
je sais pas
si c'est
vraiment vrai. Le clash
de rappeur un peu naze.
Mais ça peut être quelqu'un qui a reçu le SMS qu'il a transmis. On sait pas. Mais après, c'est vrai que c'est pas bien de baver dans le dos des gens. Mais à la fois, la décharge d'Isabelle, une interview en une du Figaro, tu peux faire plus discret, comme ragot secret. Enfin, tu vois, elle est... quand même.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Donc, Playboy ou le Figaro?
Vous l'aurez habité.
C'est ce que j'allais dire.
C'était dans le Figaro.
Ah, dans le Figaro, oui, d'accord. Oui, oui.
C'était dans le Figaro.
Tu peux faire mieux que le Figaro, Playboy.
Oui, mais bon, la place était déjà prise.
Oui, c'est vrai.
Bon, bref, ça commence quand même très, très bien. Hein. C'est 100 jours d'apaisement et d'unité demandés par Manu. Apaisement, ouais. Autre info cette semaine, annonce officielle qu'en 2024, Pôle emploi va devenir
France Travail.
Oui, bah parce que tout le monde sait que renommer un problème par le nom de la solution résout le problème, évidemment. Hein, on remplace emploi par travail, chômeur par futur actif, indemnité par rien, parce que l'objectif serait supprimé. Alors, pourquoi créer France Travail? C'est expliqué dans un rapport remis au ministre du Travail hier par le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Rien qu'avec l'intitulé du job, tu sens que ça va bullshiter. C'est évident. Et donc, ce haut-commissaire nous explique que France Travail va être la porte d'entrée pour l'ensemble des personnes en recherche d'emploi.
Waouh, c'est fort.
Oui, mais
c'est
parce
beau.
Parce que ça veut dire qu'en fait, Pôle emploi, c'était une porte dérobée, une porte de service, une chatière, je sais pas, mais ça marchait pas. Tu vois, c'est... Peut-être que là, c'est une vraie porte d'entrée avec une ouverture automatique. Là, ça va tout changer. Bon, bref, pour atteindre l'objectif qui est le plein emploi en 2027, France Travail a pour ambition de devenir, je cite encore,
l'équipe de France de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Ils sont là.
Voilà, je sais plus quoi trouver.
Il y avait eu l'équipe de France des maires. Je pensais qu'on ne trouverait jamais pire.
Si, l'équipe et voilà. de France de l'insertion. Quand tu seras au chômage, donc tu seras conseillé par les Mbappé et Giroud du service public.
Oui.
Ça, c'est cool. Mais ça, c'est si t'as du bol, parce que ça veut dire qu'on aura pris exemple sur un sport qui fonctionne bien en France. Hein, parce que sinon, si on prend le curling, là, c'est Raphaël Mathieu et Tony Angibouste.
Qu'on embrasse.
Qu'on embrasse, qu'on connaît pas. Vous savez qu'on est 35e sur 48 en curling. C'est vraiment le sport où on est nul à chier.
Oh, ouais, la tout
à
fait.
Enfin, je pense que c'était important d'apprendre des choses aussi. Hein, donc, en résumé, France Travail, comme nous le dit le communiqué de presse, va organiser les conditions de la collaboration et de l'efficacité collective dans le cadre de la gouvernance de l'ensemble.
Oui,
logique.
Alors, je sais pas vous, mais moi, là, c'était pas limpide. Du coup, j'ai pas le choix. Je crois que je vais devoir faire appel à Bullshit Trad.
Oh.
Ouais. Tu sais, c'est le Google Translate du bullshit.
Ah ouais, vas-y, ouais. vas-y. Wow.
Bah, je vous envoie le résultat. Alors. Voilà.
Mettre de l'ordre dans ce gros bordel administratif et remettre les branleurs au travail.
Ah, d'accord.
C'est quand même beaucoup plus clair,
oui,
non
oui, oui, oui.
On en essaye un autre, parce que France Travail, c'est aussi l'accompagnement renforcé des allocataires du RSA.
Fini d'envoyer des allocations à l'étranger, feignasse.
Bah oui,
ouais, voilà.
C'est,
ouais,
ça, en fait. C'est fou comme ça marche bien. Moi, je trouve ça.
Ah bah c'était vachement plus clair.
Performant.
Ouais. Je pense que je vais vraiment le développer.
Binzer. Chat GPT n'a qu'à bien se tenir.
Dernier truc, je crois que vous recevez Barbara Pompili, pardon, ancienne ministre de la transition écologique ouais. ce soir. Alors, je voulais vous confier un truc. Moi, je l'appelle Barbara Pompilop. Ouais. Parce qu'elle a toujours la pêche, Barbara. Elle c'est est énergique, ça. Elle est souriante, elle a un optimisme à toute épreuve. Même quand le RN fait plus de 40% à la présidentielle, elle danse sous la tour Eiffel. Le positif chevillé au corps. Non, si par contre, j'ai pas bien compris. Elle est dans la majorité ou elle n'est pas dans la majorité?
Arrête, Adèle, arrête.
Non, mais parce qu'elle nous a fait une séquence dernièrement. Je suis pas sûre de voter les retraites, mais je vote pas non plus la motion de censure. Attention, je suis pas sûre de rester dans Renaissance, mais je pars. Enfin, c'est. Elle nous a fait une Mbappé, elle aussi. Enfin, je veux dire, qui menaçait, c'est l'année dernière, de quitter le PSG. Sauf que, Kylian, il a reçu un appel de Manu. Et peut-être que si Manu avait appelé Barbara pour lui dire ce qu'il a dit à Kylian...
Il a son numéro encore.
Écoute, vous n'entendez pas,
mais... Elle rigole derrière.
On n'est pas sûr. Il entend son numéro. Je sais pas, il y a une source qui a dit ça juste derrière. Bref, Macron aurait pu lui dire « Écoute Barbara, je sais que tu veux partir. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire. Ici, tout le monde t'aime. » C'est vraiment ce qu'il a dit à Kylian.
C'est pas vrai.
Ouais. Et peut-être que si c'est ce qu'il avait dit à Barbara, elle n'aurait pas quitté Renaissance. Pour s'apparenter à Renaissance.
C'est ça, ouais.
Peut-on être plus macroniste? En même temps, dehors et dedans. Moi, je.
En tout cas, c'est quantique, hein. ça l'a toujours été. Hein.
En tout cas, un truc est clair, c'est qu'elle est à la tête de son parti.
Oui.
En commun.
En commun.
Qui a en commun 4 députés et on ne sait pas trop combien d'adhérents. Mais du coup, je suis allée voir en fait ce que proposait son parti. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai été un petit peu déçue.
Bon. Hein
bah, alors, regardez, vous allez avoir dans le prochain visuel envoyé par la régie ma recherche. Et c'est pas un montage, c'est okay. vraiment véridique.
Ah, y a le site à planter,
ouais,
d'accord.
Il faut remettre le site à jour, Barbara. Enfin, ça peut aider pour avoir des partisans. Enfin, Après, j'ai l'impression que depuis qu'elle est plus dans Renaissance, non plus Barbara, elle aussi, elle a un peu libéré ses énergies. Confère sa déclaration d'hier. Je sais pas si vous avez vu.
Vas-y.
Macron manque d'une vision politique de l'écologie.
Hein.
C'est.
Ah, non, elle est cache, attends, Barbara. On va en parler.
Elle n'a pas besoin de bullshit trad, elle. Quoique.
Non, vous ne l'avez pas fait.
Sur le climat, il est complètement à côté de la plaque Manu. Alors que Barbara Pompili a une vision et un programme brillant. Je dis ça, je dis rien. Hashtag Pompili 2027.
Je ne sais pas si bullshit trad hein, qu'il a dit.
C'est l'intelligence artificielle. Hein.
Voilà, donc tout est vrai, sauf ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, c'est Vinza.
Merci beaucoup, bravo, Adèle. Merci beaucoup, Adèle, pour cet avis d'Adèle incroyable. Extraordinaire. Oui, effectivement, on va bien recevoir. Alors, t'as remarqué. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, chaque semaine, la prod me rajoute une bouteille d'eau en
j'ai
plus.
Vu.
Il y en a genre 9 là. Des
j'étais tenté
d'eau.
De t'en piquer une tout à l'heure.
Non, mais tu peux autant que tu veux, parce que je sais pas, chaque semaine.
Mais peut-être
y en a
que
plus.
T'en as besoin, je sais pas.
Ah, oui, d'accord.
Merci
oui.
de rater, j'en massie, moi, je juge pas.
En plus, c'est des bouteilles en plastique. D'ailleurs, on s'était fait engueuler par Barbara Pompili l'année dernière quand t'as été venue, parce qu'on buvait dans des bouteilles en plastique, on n'a pas changé. Oh non. Ah. Bref, oubliez cette histoire de bouteille. Chers amis, sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité politique cette semaine. Je vous demande d'accueillir la députée de la Somme. Barbara Pompili. Ouais, voilà. Non, ben, voilà. Ouais,
hein. Parce bon. Ils m'ont proposé une bouteille en plastique, je leur ai dit, vous me la refaites.
Ils ont encore. Fait ça, ouais, non, mais l'année dernière, vous étiez venus.
Et donc, ils ont été très bien, vous avez quand même des gobelets en carton, c'est déjà mieux.
C'est déjà mieux, mais un jour, il y aura des gourdes. Non, je sais, je viens de me rendre compte en plus, je sais. Barbara Pompili, c'est la deuxième fois que vous venez sur le plateau de Backseat l'année dernière.
Moi, j'ai servi à ça. C'est...
Je vais pas oser boire de l'eau, madame Pompili, je vous le dis.
Non, mais allez-y, c'est bon.
Merci.
Vous étiez ministre de la transition écologique, vous n'avez pas été reconduite dans
j'ai
le.
Pas voulu.
Ah, vous n'avez pas voulu. Vous étiez dans le gouvernement de Jean Castex, Emmanuel Macron a été réélu, Elisabeth Borne a été nommée première ministre, et on vous a proposé de redevenir ministre, et vous n'avez pas souhaité.
En fait...
Vous avez fait savoir que vous ne vouliez pas.
Oui.
Ok. Pourquoi ?
Ben parce que j'avais un très très grand ministère, ouais. Et que le président, qui avait parfaitement le droit de le faire, a décidé de le couper en deux. Donc moi, je n'allais pas me retrouver avec la moitié... des prérogatives que j'avais avant.
C'était... Alors ça, c'est effectivement, c'est peut-être pas très clair pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est marrant, je vous en ai parlé cette semaine et c'est dans mon dernier best-of, faire de la politique et être ministre, ça veut dire quoi ? Et quand on a du pouvoir d'initiative, quand on a les moyens de l'ambition du projet qu'on veut mettre en place, ça sert à quelque chose d'être ministre. Mais c'est typiquement dans ce genre de choses, d'organisation ministérielle, quand on retire des délégations, quand on retire des responsabilités à un ministère pour le filer à un autre, c'est dans ces moments-là qu'on perd du pouvoir.
Oui, mais bon, je l'avais un peu voulu, donc je ne vais pas me...
C'est-à-dire ?
Parce que depuis très longtemps, je considérais que ce n'était pas bon que le ministère en charge de l'environnement soit le seul qui ait la charge mentale des questions écologiques. Et donc, je m'étais battue avec d'autres pour qu'on crée un organe auprès de la première ministre pour que ce soit la première ministre qui s'en charge. Et donc, cet organe-là, il a été créé, il s'appelle Secrétariat général à la planification écologique, et ce secrétariat général, c'est la première ministre qui doit s'en occuper. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est mieux sur le fond, parce que du coup, la première ministre, elle va obliger, elle doit, il faut qu'elle le fasse, obliger tous les ministères à s'en occuper, et pas laisser comme avant mon ministère, même si, bon, évidemment, c'est un peu caricatural, il y en a
qui faisaient des efforts, que vous voulez dire.
Mais mon ministère, tout seul, dans les rimes, les machins, à devoir se battre pour imposer un peu d'écologie partout. Donc, c'est bien, mais du coup, mon ministère devenait un peu moins important, si tout va bien, hein, parce que pour l'instant, on n'est pas au bout hein, sur ce sujet-là. Mais, et du coup, j'avais moins d'intérêt à y rester. Et puis bon, moi, je veux dire, je peux vivre sans être ministre.
Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Alors, vous êtes plus qu'ancienne ministre, puisque vous êtes députée, vous avez été réélue députée, donc députée de la Somme. Et c'est vrai, Adèle en a parlé dans sa chronique, c'est vrai que vous faites vivre au sein de la majorité une voix de plus en plus discordante. Récemment, vous avez quitté le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale pour devenir apparenté Renaissance.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que c'était pas apparent ?
Ben non, manifestement, ça n'était pas. En fait, c'était juste une clarification... Parce que moi, j'ai créé un parti qui s'appelle En Commun. Ouais. Je l'ai créé en 2020, après la Covid, parce que je considérais qu'on n'arrivait pas, au sein de la majorité, à avoir suffisamment de débats politiques. Et que je pense que c'est un très mauvais service à rendre à la démocratie que dans une majorité, il y ait une pensée unique. Donc on a besoin d'avoir des débats, et je trouve d'ailleurs que plus que jamais en ce moment, on a besoin d'avoir des débats. Donc j'avais créé un parti. Il s'avère qu'on l'a payé assez cher, hein, parce que du coup, ça a été compliqué. À la fin, on est quatre députés. Quand on est quatre députés, on ne peut pas faire de groupe à l'Assemblée. Donc, on pouvait être non-inscrit, mais être non-inscrit, on a zéro moyen, on ne peut pas travailler. Donc, il fallait qu'on se rattache à un groupe de la majorité. Donc, on s'est rattaché à celui-là. Mais du coup, comme on était membre de ce groupe de la majorité et que ce groupe de la majorité a eu la bonne idée de prendre le même nom qu'un parti politique de la majorité auquel je n'appartiens pas...
Ah oui, En Commun. Non, Renaissance.
Renaissance. C'est le même nom. Donc, tout le monde me disait, vous êtes députée Renaissance. J'étais là, bah non, je suis députée En Commun. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit stop, on se met en apparenté, on est dans la majorité, avec tout ce que
vous
ça veut dire.
Vous êtes toujours dans la majorité, c'est Barbara Pompili ?
C'est-à-dire, en ce moment, c'est plus confortable d'être dans l'opposition, je vous le confirme.
Mais vu qu'on parlait de clarification, Madame Pompili, est-ce que vous êtes oui ou non dans la majorité, oui ou non, en soutien d'Emmanuel Macron ?
Je suis dans la majorité, je l'assume. Et je vous dis, ce serait plus simple de ne pas y être, pour une raison assez simple, c'est que je suis une écologiste depuis toujours, et je considère que si il n'y a personne dans la majorité qui travaille à faire en sorte qu'on puisse continuer à réformer ce pays dans les 4 ans qui viennent, parce que moi je veux bien que tout le monde se projette à 2027, mais d'ici 2027, il y a 4 ans, pendant 4 ans, s'il n'y a pas un peu de bonne volonté pour essayer de recréer des liens entre tout le monde, pour pouvoir faire des réformes qui sont très nécessaires pour notre pays, eh ben le pays va être paralysé pendant 4 ans. Et moi, je considère que quand... on pourra parler de la réforme des retraites, si vous voulez, tout ça. Ah. Pendant ce temps-là, la planète se réchauffe. Mmh. Pendant ce temps-là, on a des problèmes en cascade qui nous tombent sur la tête à cause du réchauffement climatique qui touche tous les aspects de notre vie. Que ce soit ce qu'on mange, ce qu'on boit, que ce soit l'air qu'on respire, que ce soit la manière qu'on a de se déplacer, tout. Et puis, bah là, du coup, plus personne s'en occupe. Moi, je considère que si on s'en occupe pas pendant 4 ans, c'est criminel.
Ce qui fait que vous restez dans la majorité, vous le dites, c'est la nécessité de mener les réformes dont notre pays a besoin. Il y en a une de réforme dont semble-t-il notre pays aurait besoin, d'après le président de la République, c'est la réforme des retraites. Son cœur, cette réforme, c'est le décalage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64. Or, Barbara Pompili, vous avez annoncé que si c'était arrivé au vote, vous n'auriez pas voté. Le cœur de cette réforme. Mais est-ce que ça fait de vous une députée de la majorité? La question peut se poser sur un truc aussi essentiel, important, de la bouche du président de la République lui-même. Vous voyez,
ça, effectivement, ils en ont fait quelque chose qui était devenu un marqueur de la majorité.
Et ouais.
Mais quand on est dans une majorité, enfin, j'ai été dans plein de majorités avant, il s'avère que si on n'est pas dans le même parti politique, c'est qu'on n'est pas d'accord sur tout. Sinon, on serait dans le même parti politique. Et encore, même dans les partis politiques, il y a normalement des nuances. Normalement, dans les partis politiques qui fonctionnent démocratiquement. Donc, je ne suis pas dans le même parti parce que je peux globalement assumer de suivre une vision, de suivre un président. En plus, j'avais travaillé avec lui dans le précédent quinquennat. Je vous rappelle que l'offre politique pour la précédente présidentielle, c'était aussi un peu compliqué. Donc, j'ai assumé, j'assume complètement d'avoir été élu aussi dans la majorité. On le doit aussi un peu à nos électeurs quand même. Il ne faut pas non plus les prendre pour
Vous avez été élu, oui.
Voilà. Par contre, moi, vous pourrez regarder dans mon tract, je n'avais pas mis la réforme des retraites. Parce que c'était un des points, j'en ai d'autres, mais c'était un des points sur lesquels je n'étais pas d'accord. Et comme je n'étais pas d'accord, je me suis dit, bon, je peux dire, je ne suis pas d'accord, puis je peux dire, je suis dans la majorité, on va essayer, dans cette réforme, de mettre des choses. Donc, en sachant que sur les 64 ans, je ne serai jamais d'accord, parce que je pense qu'il y avait d'autres possibilités de trouver des financements que de passer à 64 ans.
Oui, vous ne l'avez pas mis sur votre tract, mais ça ne voulait pas dire qu'en étant les députés, vous auriez... de la majorité, vous auriez dû voter cette réforme-là. Et c'est-à-dire que ce n'est pas fondamental pour vous au point de vous dire « Non, par contre, je ne peux pas être élu dans cette majorité-là. » C'est-à-dire que ce n'est pas un point fondamental. C'est extrêmement important pour la majorité des Français aujourd'hui et vous le voyez dans les manifestations qu'il y a eu. Mais pour vous, vous êtes dit « Ouais, bon, moi, je ne le mets pas sur mon tract et puis on verra si je le vote, je ne le vote pas. Mais je reste quand même dans cette majorité-là, ça me va. »
Parce que dans ces cas-là, dès que j'ai un point de désaccord... Aussi
c'est
important,
un point fondamental.
C'est un point fondamental parce que le président de la République a dit « Moi, ça sera... » Enfin, il ne l'a pas dit exactement, mais enfin, c'est devenu une réforme emblématique. Moi, je considère qu'une réforme comme celle-là, où, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, tout le monde le sait parce que tout le monde a épluché ce texte en long, en large et en travers, il y a une clause de revoyure. C'est-à-dire qu'il y a une clause de revoyure, c'est une loi, ça peut être changé.
Ça va arriver plus tôt parce que là, il va y avoir une loi d'abrogation, c'est ça le mot qui va arriver. Barbara Pompili, vous la voterez, cette loi d'abrogation?
Moi, je suis contre les effets d'annonce qui servent à rien. Je suis
c'est
pour...
C'est une proposition de loi, c'est pas un effet d'annonce. Quand c'est déposé par l'IOT, je sais pas si ça va l'être.
Alors, vous savez quoi? On va faire un truc qui s'appelle le « admettons ».
Admettons.
Mm-hmm. D'accord. Admettons que cette proposition de loi donc, soit déposée, admettons qu'elle arrive à l'Assemblée nationale, qu'elle soit mise à l'ordre du jour, ça c'est tout à fait possible. Admettons qu'elle soit votée, c'est possible. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle la navette parlementaire, donc il faut que ça parte au Sénat.
Elle ne sera jamais appliquée.
Il faut que ça parte au Sénat, donc là elle est adoptée, je crois que c'est en début juin, elle part au Sénat. Il faut que ça arrive à l'ordre du jour du Sénat. Déjà, le gouvernement ne mettra pas à l'ordre du jour, c'est logique. Le groupe majoritaire qui est maître de l'ordre du jour au Sénat, les Républicains ne mettront pas à l'ordre du jour. Donc il faut que ce soit un groupe minoritaire qui le mette dans son ordre du jour à lui. Donc ça veut dire que ça nous repousse déjà à la rentrée, c'est-à-dire qu'elle est déjà en train d'être appliquée à ce moment-là. Ça arrive dans... Admettons, ça arrive donc dans cette niche au Sénat d'un groupe qui l'aurait mis à l'ordre du jour. Ça ne sera pas voté.
Ouais, c'est sûr.
Et admettons même que dans un espèce de moment de folie furieuse où tous ceux qui ont voté pour la dernière fois changent d'avis, ça serait voté, mais dans ces cas-là, de toute façon, la loi serait déjà en train de s'appliquer puisqu'elle s'applique en septembre, la loi. Donc, moi, je ne veux pas que on fasse des effets d'annonce qui sont juste là pour faire ça aurait un effet politique machin.
Justement,
mais,
en fait,
mais moi ce qui m'intéresse c'est changer la vie des gens
ça,
réellement,
ça,
pas refaire du temps sur des trucs où ça marchera pas.
Admettez aussi que c'est pas la première fois que l'Assemblée nationale ou des députés voteraient des trucs en sachant très bien que le Sénat dira non, mais parce que c'était quand même des combats politiques, donc même si le Sénat dira non, évidemment qu'il dira non, mais peu importe, il y a quand même des moments où les députés disent bah, eh ben nous c'est important pour nous donc on va voter ça. Donc il y a un moment où vous allez devoir lever la main quand la question sera posée, vous votez pour ou vous.
C'est important pour les gens et pour vos électeurs de savoir aussi, parce que une fois
pour mes électeurs, je leur dis
tout ça, c'est votre.
Pour mes électeurs, je leur dis très clairement, je ne participe pas au cirque. D'ailleurs, vous m'avez pas vu pendant la réforme sur les retraites.
Ouais,
j'ai dit
vrai.
Ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais j'ai pas du tout eu envie d'alimenter la chronique. J'ai trouvé que nous avions des syndicats qui faisaient très bien leur travail, qui ont été extrêmement respectables et qui d'ailleurs ont été, enfin, plus respectables. Que le spectacle parlementaire qui m'a donné envie de pleurer.
Non, mais au-delà du parlementaire, médiatiquement, par exemple, vous vous êtes pas dit, tiens, je peux apporter mon soutien, moi je suis contre cette réforme, je peux marquer une opposition. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez susciter le débat au sein de la majorité. En vous affirmant davantage dans les médias. Non, plus que ça encore. Plus que ça encore, c'était nécessaire, je pense, au niveau de. Enfin, pour les gens. D'affirmer cela et de donner plus de visibilité à cette position.
Vous savez, bon, peut-être que vous l'avez pas vu. Mais je peux
pas
vous dire,
je peux
vous dire
pas,
que dans la majorité, que dans la majorité,
évidemment
ça
dans
s'est
la majorité,
beaucoup
mais
vu.
Vous êtes entre l'enclume et le marteau.
Oui, mais bon, ça c'est pas un problème, c'est pas grave. Mais je peux vous dire que dans la majorité, on m'a même traité de frondeuse. Je dis ah non, mais on peut exprimer une opinion sans être frondeur.
Oh le gros mot. Ça rappelle des souvenirs, Antoine.
Est-ce que cette question aurait dû être tranchée par référendum?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on va voir ce qui se dit sur le RIP, hein, et puis là on verra bien. Mais après, une fois que la question sera tranchée, de toute façon, je considère que, et c'est peut-être ça aussi ma manière de voir, c'est que le combat ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que maintenant, on a des points très importants que nous, on a mis sur la table avec mes collègues d'En Commun, et avec d'autres d'ailleurs députés qui sont moins vocaux, mais qui sont pas à l'aise non plus avec ce qui s'est passé sur la réforme des retraites, où on s'est dit, ok, vous voulez qu'on... Ah oui, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je tape sur la table. Vous voulez qu'on parle des retraits, des conditions de travail des gens? Très bien. Il faut qu'on travaille sur un index senior contraignant. Il faut qu'on travaille sur remettre à plat, enfin, les conditions de pénibilité, tout ce qui concerne la pénibilité qui avait été annoncée, qui n'a pas été fait. Ouais. Il faut qu'on travaille aussi sur vraiment une égalité homme-femme sur les salaires et sur les carrières professionnelles. Moi, c'est tous ces sujets-là.
Une partie de ces mesures ont été censurées.
Alors, elles ont été censurées, mais
surtout
forcément,
sur la forme, donc elles vont revenir. Ouais.
Parce que. Non, puis, il n'y avait pas tout dans le texte. Qu'il y a un choix qui a été fait, qui est un choix qui était forcément mauvais, qui était de mettre ça dans un texte budgétaire. Et donc, quand vous mettez ça dans un texte budgétaire, tout le reste de la réforme, qui était très important, n'a pas pu être traité. Donc, nous, on dit bah, OK, maintenant vous voulez qu'on discute, vous voulez qu'on avance sur ces sujets-là. Vous avez dit, et je pense à la sincérité d'Elisabeth Borne sur ce sujet, vous avez dit que vous vouliez vraiment avancer sur ces sujets qui sont cruciaux pour nos concitoyens. Eh bien, allons-y.
OK. Malek.
Madame Pompili, vous, comme tous les autres députés de l'hémicycle, vous n'avez jamais eu à voter sur la réforme des retraites. Jamais.
Non.
Vous avez à vous prononcer sur la responsabilité du gouvernement, oui, mais pas sur le texte. Admettons qu'il y ait cette loi d'abrogation, encore une fois. OK, même si elle n'arrive pas, même si elle n'est pas mise à l'ordre du jour du Sénat, vous avez pris un engagement, oui et non, en ne mentionnant pas cette proposition-là dans votre tract pendant votre campagne. Votre rôle de député, c'est aussi...
Ah, parce que je ne m'engageais pas dessus.
Bien sûr. Ouais. Votre rôle de député, c'est aussi de faire preuve d'un peu de courage et de voter au moment venu. Donc la question, oui ou non, je sais que c'est un petit peu brutal comme question, mais... Si loi d'abrogation est mise à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes amené à la voter, oui ou non?
Je ne sais pas.
Okay.
Non, je vais voir, je vais en discuter, parce que nous, on fait des votes, on est quatre, donc on essaye, on essaye d'être cohérent dans nos votes. Mais ce que je vous dis à l'heure actuelle, c'est que, et là je le dis clairement, oui, je suis contre le passage de 62 à 64 ans. Je pense que moi, j'avais demandé à ce qu'on puisse avoir une taxation sur les dividendes.
Ah, pour financer le...
Oui, parce que c'était... Parce qu'il nous disait, il faut rester dans l'état d'esprit de la réforme par répartition, et ça, j'entends.
Et ne pas augmenter les prélèvements obligatoires.
Donc, on se disait, mais en fait, c'est une cotisation sociale, quelque part. C'est un revenu du travail, un dividende, indirectement.
Oh oui.
Donc, on se disait, ces revenus-là peuvent cotiser.
Ça a du sens.
Donc ça, c'est quelque chose que je porte énormément et que je vais continuer à porter, parce que c'est pas fini, hein, il y a encore des budgets qui viennent. Donc, on va remettre ça régulièrement sur le métier. Mais sur le vote de ça, encore une fois, je n'aime pas, j'aime pas l'idée d'être instrumentalisée dans une forme de spectacle politique qui ne mène à rien.
C'est pas du
donc,
spectacle
c'est ça
politique,
qui
madame.
Ben, c'est votre avis.
Oui, c'est
mon
avis.
Mais en fait, c'est le mien.
Ça va être votre occasion pour la première fois depuis le début de la discussion de vous prononcer sur le texte en quelque sorte.
Mais on verra.
On a fait des votes. Je vous rappelle que sur l'article 7,
il n'y a pas eu de vote.
On aurait bien aimé pouvoir voter.
Ah, je vous confirme.
Et je vous rappelle, pour mémoire, que si on n'a pas pu voter l'article 7, pour le coup, parce qu'il faut être juste dans la vie. Il faut être juste. C'est pas de la faute du président de la République ni de la Première ministre.
Alors, il y a eu des petites indiscrétions, notamment avec des dans l'état-major du groupe Renaissance, dont vous n'êtes plus, on a bien noté, qui se réjouissaient justement finalement de ne pas être allés au vote.
Je crois que ça a arrangé que ce soit pas voté, mais
ça a arrangé pas mal de monde quand même.
Pour rendre à César ce qu'est à César, une partie de l'hémicycle, plutôt vers la gauche, a effectivement fait
c'est
un
vrai.
Travail qu'on appelle d'obstruction pour ne pas aller jusqu'à l'article 7 en accusant le gouvernement d'être responsable de cette obstruction parce qu'il avait choisi la loi.
Ce qui a arrangé pas mal de
monde. Ce qui, bon, bref, tout ça pour dire, on va pas refaire le match, parce que moi, je peux le refaire tout le temps quand vous voulez, hein, le match. Article 47.1, oui, budget, etc. Mais en même temps, bon, on va pas le refaire, on l'a déjà fait mille fois, ce débat, mais il est très intéressant. Vous avez entendu Barbara Pompili, vous l'avez rappelé, vous êtes une écologiste depuis toujours, ça vous tient à cœur, vous avez été ministre. Vous avez entendu dans les manifestations sans doute ce slogan « pas de retraite sur une planète brûlée ».
Oui.
Il y a un lien direct entre la question des conditions de travail, des conditions de cotisation dans des systèmes de solidarité et la question climatique. En tout cas, il y a un lien qui est fait par des manifestants issus du mouvement climat. Comment vous l'analysez-vous, ça ?
C'est logique, hein. C'est logique. Et c'est, vous avez repris la phrase sur la vision politique. Je ne sais pas si le président a une vision politique ou pas sur l'écologie. Ce que je dis, c'est qu'il ne l'exprime pas. Et que c'est peut-être ça son problème. Parce que, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on sait, tout le monde sait, que le climat se réchauffe, que ça a des conséquences, et qu'il va falloir s'en occuper. Et qu'il faut s'en occuper beaucoup. On peut le voir de deux manières. Soit d'une manière extrêmement technique. C'est-à-dire, le climat se réchauffe. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'émissions de gaz à effet de serre, donc il faut baisser les gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre ? Les transports, le logement, le machin, etc.
Ouais.
Donc, on va regarder secteur par secteur comment on baisse, etc. Et d'ailleurs,
ça, c'est un regard technique qui est fait
par le gouvernement.
C'est un
regard technique qui est fait, et qui est fait plus ou moins bien selon les secteurs, mais en tout cas, c'est fait.
Okay.
C'est fait, et d'ailleurs, il y a déjà quelques résultats.
Et
après, il y a une vision politique. Et je crois que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui manque dans le fait que aujourd'hui, tout le monde est désespéré, tout le monde a peur de l'avenir, tout le monde est en colère, tout le monde se monte les uns contre les autres. Alors que je rappelle qu'on est tous dans le même bateau et que si on ne gère pas tous ensemble ce problème, on va tous se le prendre dans la figure. Et en premier lieu, pour revenir à la question, en premier lieu, les plus fragiles. C'est toujours les plus fragiles qui se prennent en premier les conséquences du réchauffement climatique, les pays les plus fragiles. Et dans les pays industrialisés comme les nôtres, les plus fragiles, soit qui ont des problèmes de santé, soit qui ont des problèmes de revenus, etc.
Oui, mais ce tout
donc,
ensemble n'exclut pas la répartition de
Et donc, pour faire ça, il faut avoir une vision. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on essaye de mettre des emplâtres sur une jambe de bois ou est-ce qu'on profite quelque part de cette occasion ? Parce qu'il est là, le changement climatique. Donc, soit on s'en occupe et on se dit, c'est peut-être l'occasion d'en profiter pour changer un petit peu la société dans laquelle on vit, pour essayer de réfléchir à nos modes de vie, pour essayer de vivre mieux, pour recréer du lien, pour arrêter cette déshumanisation qu'on est en train de vivre. Et donc, pour essayer vraiment de reconstruire une nouvelle société dans laquelle il y aura plus de justice sociale, parce que justice sociale et environnementale, c'est la même chose.
Oui,
et donc, on l'a décrit, cette société. Ou alors, juste, je termine.
Allez-y.
On ne s'en occupe pas, on se met la tête dans le sable, on essaye de repousser les échéances, comme toujours. Moi, dans ma loi climat-résilience, où on m'expliquait que c'était nul, que c'était pas assez, etc., là, maintenant qu'on est en train de mettre en place ces conséquences, tout le monde vient me voir pour me dire oh, « ça va trop vite, ça va trop loin, c'est horrible, Lausanne, les ZFE, etc. » Eh bien, si on s'en occupe pas, on va quand même devoir passer le cap. Et là, je peux vous dire que la casse sociale, ce sera autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui.
La question du changement climatique, dans sa prise en compte, qu'elle soit technique ou politique, le rapport du GIEC le dit lui-même, il y a une nécessité de travailler sur la démocratie, dans notamment pour ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale des décisions et des mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Meilleur exemple, la taxe carbone, gilet jaune, parce que c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que c'est à moi, avec mes 206, de payer plus cher le pétrole, alors qu'à côté, il y a des gens qui ça va pas avoir le même impact sur leur vie. Maintenant, je pense qu'on a bien le truc. Mais quand des gens disent pas de retraite sur une planète brûlée, ça dit aussi justement cette répartition de l'effort et l'injustice de cette répartition de l'effort. Faire payer 2 ans de plus le travail des gens pour la soutenabilité d'un système de retraite que l'on pourrait par ailleurs financer en demandant à des gens des dividendes. C'est la proposition que vous faisiez, ou la taxation du capital, ou des choses comme ça. C'est, le lien, je le vois aussi là, et c'est pour ça que je comprends aussi que des manifestants voient l'injustice de la même manière en miroir. Vous le comprenez, ça ?
Oui, je le comprends complètement. Okay. Mais justement, moi, j'essaye maintenant de sortir un peu de ça, parce que ce qui m'inquiète aujourd'hui beaucoup, et d'ailleurs, on parlait de démocratie, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que notre système démocratique est un petit peu en difficulté et fait qu'on n'arrive plus à se mettre autour de la table pour essayer de résoudre des problèmes graves. Mmh. Et des problèmes qu'on doit affronter là, maintenant. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je constate que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, là c'est bien partagé, une tendance à désigner l'ennemi, à désigner le bouc émissaire, à désigner celui qui fait mal alors que nous on fait bien. Je l'ai vu malheureusement récemment dans la majorité quand on commence à accuser des musulmans. Je trouve que c'est dangereux, c'est-à-dire qu'on repart sur des amalgames. Comment voulez-vous discuter sérieusement quand on commence à avoir des amalgames qui laissent penser que musulmans égale arabe égale voleur égale il nous prend nos sous. Enfin, je trouve que c'est grave comme de sortir ça, surtout quand on est responsable politique.
Vous faites référence de l'autre côté à une parole de Bruno Le Maire en l'occurrence.
Oui, et je suis choquée qu'il ait dit ça. Je comprends pas. Et de l'autre côté, je vois aussi, et je l'ai vécu parce que c'est dans ma famille politique, même si on a pris des chemins différents, mais des Verts qui, par exemple, continuent à stigmatiser les agriculteurs. Je ne sais pas comment faire.
Vous parlez de Sainte-Soline, là ?
Je parle en général.
En général,
la guerre écolo, entre guillemets, agriculteurs, c'est un grand classique de la vie politique. Mais on ne peut pas, en fait, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à avoir des gens qui attaquent d'autres gens, les agriculteurs qui disent « vous êtes des bobos parisiens, vous y connaissez rien, on est dans la merde », les écolos qui disent « mais vous vous rendez pas compte, votre système, c'est un système qui est en train de nous tuer, résultat, maintenant, dans les campagnes, on n'arrive plus à se parler, et c'est en chien de faïence, alors qu'on doit changer de système agricole, qu'on doit absolument s'occuper de ça, parce que c'est un problème de santé publique et d'environnement, et qu'à un moment, on ne pourra pas le faire sans les agriculteurs. Donc, la question, c'est plutôt comment on fait pour réussir à faire ce changement tous ensemble. Comment on fait, moi, avoir des débats sur n'importe quel sujet me pose aucun problème. À partir du moment où on sort des caricatures, on accepte la complexité du monde, c'est un petit peu plus difficile, c'est un petit peu moins marrant, mais c'est aussi ça, être responsable politique.
Vous l'avez dit à Bruno Le Maire, ça ?
Il s'avère que je ne l'ai pas vu, mais j'ai dit deux fois.
Vous n'avez pas son numéro ? Vous n'avez pas fait un message ?
Mais il s'avère que je...
Vous ne lui avez rien dit. Vous nous le dites ici, mais vous ne lui avez pas dit à lui ?
Il n'a pas dit à moi non plus. Il ne m'a pas appelé avant pour me prévenir.
Moi, le message est passé.
Non, j'aurais dû lui dire.
Souvent, quand j'ai un collègue qui dépasse un peu...
Mais ce n'est plus mon collègue.
Je fais un petit message. Ou un ex-collègue. Ou voilà. Quelqu'un de ma famille politique, même si je n'en ai pas.
Il s'avère que j'aurais beaucoup de messages à faire passer en ce moment.
Je vous propose de clipper cet extrait et de le poster sur Twitter, et puis comme ça, Bruno Le Maire le verra.
Je l'assume complètement, mais c'est des paroles publiques. Oui. Donc à un moment, la réponse peut être publique aussi.
Mais justement, sur ce point-là, on voit quand même qu'il y a une certaine droitisation d'Emmanuel Macron et du gouvernement entre 2017 et aujourd'hui, une droitisation qui est à la fois sur la forme et sur le fond, en termes de l'équilibre gauche-droite qu'il essayait de trouver en 2017, il est quand même de moins en moins respecté, et ça se voit avec toutes les lois qui passent. Justement, est-ce qu'un positionnement de centre-gauche qui pouvait être éventuellement compatible avec un engagement dans la majorité présidentielle en 2017 l'est toujours aujourd'hui ? Et quid, par exemple, de ce qui essaye de se recréer au centre-gauche autour de Bernard Cazeneuve et tout ça ? Enfin, comment vous percevez cet espace politique ?
Je pense qu'effectivement, il y a un espace politique qui, aujourd'hui, n'est pas organisé, quoi, occupé. Je vous confirme qu'on est un certain nombre dans la majorité à constater avec, comment on peut dire, on constate, quoi, qu'il y a vraiment une migration vers la droite, vers les idées traditionnelles de droite, de la majorité, et que cet équilibre est en train d'être rompu. Et donc, nous, dans la majorité, quelle est l'alternative qu'on a, en fait ? Soit on passe dans l'opposition, et quelque part, ben, on rejoint ceux qui sont dans l'opposition et qui ont déjà ce même discours. Soit on reste dans la majorité pour justement continuer à parler à tous ceux qui sont peut-être un peu moins vocaux que moi, mais qui n'en pensent pas moins, et qui peut-être n'osent pas trop parler, parce que vous n'imaginez pas les pressions.
Dont
font l'objet ceux qui ont une parole différente. Mais je considère que j'ai pensé, en 2017, que la question du dépassement pouvait être intéressante, parce que quand j'ai suivi Emmanuel Macron en 2017, c'est parce que je trouvais que son diagnostic sur les partis moribonds qui n'arrivaient plus à se parler, qui étaient sur leur espèce de dogme, etc., plus personne n'en voulait. Moi, j'en voulais plus. Et d'ailleurs, s'il a gagné, c'est que je pense que c'était assez partagé.
Oui, c'est vrai.
Et que derrière, il faut reconstruire quelque chose. On est au tout début de la reconstruction. Cette reconstruction, je pense qu'au centre-gauche, elle est vraiment pas faite du tout,
non. Mais
que des discussions avec des gens comme Bernard Cazeneuve, évidemment, on a déjà eu des échanges et on continue à discuter. Moi, je discute avec des députés de la majorité dont je partage les idées, des députés de l'opposition dont je partage les idées, et je pousse pour que, justement, on puisse travailler le plus souvent possible ensemble pour proposer des choses, pour montrer aussi ce qu'on peut proposer comme alternative. Pour, à la fin, et j'insiste beaucoup, pour à la fin que dans les 4 ans qui viennent, on puisse proposer des choses qui passent et qui permettent d'avancer concrètement parce qu'on n'a pas le temps, et qu'ensuite, pour 2027, ben on puisse réfléchir à proposer une alternative. On sait qu'en 2027, il y aura, le président de la République ne se représente plus. Donc, ça ouvre les possibles.
Ouais.
Et donc, il y a
justement,
deux étapes.
Ça aiguise aussi les ambitions. Mais c'est vrai c'est votre ambition, c'est votre identité politique, Barbara Pompili. Vous faites partie de cette génération de responsables écolos qui, au tournant des années 2010, ont voulu construire la participation des écologistes à des exécutifs pour faire avancer les choses concrètement parce qu'on n'a pas le temps, etc. À la différence peut-être d'autres écologistes qui, et vous les critiquez à l'époque et vous critiquez aussi en retour, étaient davantage dans la revendication, plus vocaux, comme vous dites. Et aujourd'hui, quel bilan vous en tirez ? On a retrouvé un extrait de votre passage sur le plateau de Baxit l'année dernière, où vous nous parliez justement de ce choix de participer à un exécutif. On va le regarder.
D'avoir le ministère de l'écologie, avec dedans le logement, avec dedans les transports, avec les questions de l'énergie, avec la biodiversité, avec l'eau, enfin tous ces sujets-là, à un moment, je me suis dit, mais si t'y vas pas, toute ta vie, tu t'en voudras de ne pas avoir essayé. Et après, je me serais dit, tu n'as plus le droit de critiquer
si
tu n'as pas essayé.
Quel regard vous portez sur ça, sur la participation à l'exécutif ? Est-ce que c'est aigre-doux ? Est-ce que c'était nécessaire et vous en êtes fier ? Est-ce que vous dites que les conditions auraient dû être différentes ?
J'enlèverai pas un mot de ce que cette personne a dit là. je pense que si on a chevillé au corps conscience de l'urgence à agir, il faut, là où on est, essayer d'agir le plus possible. Et en tant que ministre, j'ai poussé tout ce que j'ai pu. J'ai eu des moments très durs de frustration parce que on vit pas dans un monde merveilleux où, en fait, à chaque fois que je dis quelque chose, tout le monde me dit « Oh, vous avez raison, on va le faire, c'est génial ». Non, il s'avère que c'est pas comme ça que ça marche. Sur l'écologie, on fait face à la peur, on fait face à des lobbies, mais bon, des lobbies, il y en a partout. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que là, j'ai demandé à pouvoir travailler sur une mission sur l'acceptabilité de la transition, parce que tout ce que j'ai mis en place, et je tiens à le dire d'ailleurs, parce que ceux qui sont vocaux là, moi je les ai pas vus beaucoup m'aider, hein, quand on se battait pour développer les énergies renouvelables, pour empêcher que on arrête de développer les énergies renouvelables, ce qui aurait pu arriver à un moment. Ce sont des moments qui sont extrêmement durs, où je peux vous dire que dans ces moments-là, on se sent bien seul, mais où il faut tenir et tenir bon. Et donc, je suis très fière qu'aujourd'hui on avance, mais il s'avère que maintenant, vous mettez des éoliennes, vous avez un front du refus,
ouais.
Vous mettez un méthaniseur, front du refus, les ZFE, on nous raconte que c'est des zones à forte exclusion, enfin, juste, on est en train de parler de la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an. Alors, à chaque fois qu'on sort un chiffre, les gens se disent 40 000 morts. Ben, en gros, il y a les trois causes de mort évitables les plus importantes, c'est l'alcool, c'est la cigarette et c'est la pollution de l'air. C'est 100 fois plus que les accidents de la route. Si on se bat pas pour agir là-dessus, mais moi, je trouverais normal que ceux qui nous suivent nous attaquent en justice en disant « Vous l'avez pas fait ».
Et ils le font d'ailleurs.
Donc, on le fait, sauf que le fait est que les gens ont peur, nous disent les zones à faible émission, même les verts, même des responsables d'agglomérations vertes me disent on va repousser parce que là,
c'est ça l'exercice du pouvoir.
C'est l'exercice du pouvoir, mais l'exercice du pouvoir est noble parce qu'on se confronte avec la réalité, mais on fait. Et c'est ça qui est important.
Latifa.
Vous parliez du. Au début, vous parliez du. Là-dessus, sur ces mesures-là, du secrétariat d'État, la planification écologique, vous avez souhaité rattacher à la. Enfin, qu'il y ait un organe qui permette de mettre de l'action écologique dans tous les ministères attachés à la Première ministre. Vous sembliez un peu déçu au début d'en parler ou un peu. C'est pas l'action écologique. Enfin, la Première ministre s'en charge pas suffisamment ou c'était pas comme vous l'imaginiez? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, bah d'abord, je me doutais que la mise en place de ce secrétariat général prendrait du temps. Bon, ça, c'est un peu inévitable. Donc là, ça y est, il est mis en place. Donc ça a mis un peu de temps. Donc pendant que ça se met en place, on n'avance pas beaucoup. Et puis, voilà, faut être lucide. Le débat sur les retraites a emporté tout le reste. Et donc, pendant ce temps-là, la Première ministre a eu son attention monopolisée sur le sujet des retraites. Et même si le sujet est très important, je prétends que le sujet de l'écologie est aussi très, très important. Moi, je ne fais pas de hiérarchie. Je pense que c'est très, très important aussi. Et que du coup, pendant ce temps-là, elle s'en est moins occupée au sens politique du terme. Et je pense que c'est important de s'en occuper au sens politique du terme, c'est-à-dire là, de lancer des impulsions. Donc là, j'ai entendu que ça y est, il y avait des choses qui allaient avancer sur ce sujet. Donc je regarde, j'attends avec impatience et je vais pousser parce que c'est très important que ça aille vite maintenant.
Malek ?
J'ai bien compris que vos propos étaient différents de ceux qui ont été mis en titre sur la vision politique d'Emmanuel Macron. Vous dites plutôt qu'il ne communique pas assez dessus.
J'aime pas qu'on pense à ma place, donc j'essaye de ne pas faire la même chose, donc je ne pense pas à sa place, je ne sais pas s'il a une vision politique. Okay. En tout cas, il ne l'exprime pas.
Bon, moi, en tout cas, ma position, c'est qu'il n'en a absolument pas.
c'est ta parole à toi,
c'est
Malek.
Ma parole à moi, et je l'assume, elle n'engage que moi, et je condamne les violences, je le précise. Donc Emmanuel Macron vient de, vous l'avez dit, hein, ceux qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, ce sont les plus fragiles, les travailleurs précaires. On vient de leur retirer 2 années de vie en les mettant au boulot. Si on parle donc de la vision écologique, vu que, selon moi, Emmanuel Macron n'a pas de vision sur l'écologie, qu'est-ce qu'il devrait faire là, justement,
tout de suite,
maintenant ? Oui.
Sur l'écologie, il devrait...
C'est quoi l'urgence, là, tout de suite ? Vous êtes devant Emmanuel Macron. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Je veux bien jouer le rôle pendant 2 minutes.
T'es mieux.
Mais voilà.
Mais c'est vrai, oui.
On lui dit quoi, Emmanuel Macron, là, tout de suite ? C'est quoi l'urgence ?
Vu qu'il regarde Backseat.
Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais je vais lui dire l'urgence, c'est de pacifier.
C'est l'apaisement ?
Oui, alors l'apaisement, maintenant, ça devient un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais je vous l'ai dit. On ne pourra pas réussir, je vous ai parlé de ces problèmes d'acceptabilité de la transition, on ne peut pas réussir dans une ambiance telle qu'elle est aujourd'hui, où tout le monde se méfie de tout le monde, ouais. Où tout le monde se méfie de son voisin, parce que ce qu'il a, lui, moi je ne l'ai pas, etc. On a besoin de recréer un élan, j'ai envie de dire presque un élan national. Moi c'était un peu ma déception lundi, je me suis dit, mince, s'il veut vraiment apaiser... Il faut surtout, on arrête les petites phrases où on monte les gens les uns contre les autres, déjà, première chose. Et deuxième chose, c'est son rôle, en fait, en tant que président, c'est d'emmener tout le monde et de dire, voilà, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux construire? C'est quoi le pays que je veux construire? Pour moi, je pense que c'est un pays qui se construit pour être résilient face à, justement, au climat, où on va vivre mieux, etc. Et tout ça, après, on peut le décliner dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et notamment dans les domaines de vie quotidienne, pour dire aux gens, on va faire en sorte que vous puissiez continuer à vous déplacer si vous en avez besoin. On va vous trouver des solutions et on va les construire ensemble parce qu'on va en discuter. Vous avez besoin de quoi ? Pour vous loger, pour tout, quoi. Mais ça, voilà. Moi, parce que ça recréerait aussi un peu d'espoir et d'enthousiasme. Et je crois qu'on a besoin d'espoir et d'enthousiasme. Et il y a une demoiselle tout à l'heure qui disait que je souriais et que je riais. Et une fois, c'est marrant parce que c'était Mathilde Panot qui m'avait dit une fois, on s'entend plutôt bien avec Mathilde Panot, donc c'est pas un sujet, elle m'a dit, mais franchement, vu la situation, comment tu peux sourire ? Je dis, c'est sûr que si je fais la gueule, ça va arranger les choses.
Dernière question, après on va passer au quiz à la con. Est-ce qu'on peut discuter d'environnement, de climat et d'écologie avec l'extrême droite ? Le journaliste Hugo Clément a défrayé la chronique cette semaine. C'est une question que je trouve intéressante. D'autant que moi, sur ce plateau, j'ai toujours assumé de refuser de recevoir l'extrême droite. Donc, j'en prends ma part aussi pour moi. Lui a du coup un point de vue inverse, c'est que non seulement il faut parler avec eux, mais qu'il faut même aller parler chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Barbara Pompili ?
J'ai vu ça et je me suis posé la question, t'aurais fait quoi ? Et j'ai pas... Moi, par exemple, j'avais toujours refusé d'aller sur les plateaux de Zemmour. Et je suis affolée par la banalisation du Front National. J'arrive pas à l'appeler autrement, mais parce que je suis vieille, donc pour moi, je suis affolée par ça. Je suis affolée par le fait que on considère que leurs idées sont comme les autres, que finalement c'est pareil. Enfin, à un moment, j'ai envie de redonner des cours d'histoire et des cours de géographie et de géopolitique actuellement à tout le monde.
Et cet affolement, ça.
Après, il y a un sujet. Il y a un sujet entre le Front National et les gens qui votent pour le Front National. Et quand aujourd'hui je constate dans mon coin, enfin chez moi, et puis ça c'est la même chose dans les sondages, donc quand les deux collent en général, c'est qu'il y a quelque chose, que maintenant beaucoup de gens se disent tiens, je voterai bien pour Marine Le Pen la prochaine fois parce qu'on n'est pas foutu d'organiser, on n'est pas foutu d'organiser la promesse d'une alternance qui donne envie aux gens. Donc c'est aussi ça, moi, que j'aimerais.
C'est la faute de la gauche.
C'est la faute à tout le monde. Mais et on sera tous très, à mon avis, on va se réveiller un peu avec la gueule de bois en 2027 si on réagit pas. Donc après, les gens qui peuvent voter pour le Front National, ceux-là, il faut leur parler. Parce que c'est vous et moi, c'est mon voisin.
Je comprends, mais
c'est pour ça que je me posais la question, qu'est-ce que j'aurais fait ? Parce que sur l'écologie, alors ils disent quand même un monceau d'idiotie. Et un monceau, mais c'est même pas, je vais même pas insulter, monceau de choses fausses, c'est tout. C'est factuellement faux.
Oui, on l'avait vu pendant la présidentielle.
Voilà, et donc il faut être capable aussi de fact-checker tout ça.
On va continuer cette émission, chers amis, et on enchaîne avec la partie que vous attendez tous. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, chers amis, le quiz à la con, comme chaque semaine, c'est très simple. Il y a 5 questions, 4 propositions de réponses. Et vous devez essayer de trouver autour de ce plateau quelle est la bonne réponse à la question. Et vous, chez vous, vous jouez puisque vous allez cliquer et voter dans le sondage sur le chat sur Twitch pour nous dire ce que vous pensez être la bonne réponse à chacune de ces questions. Vous êtes prêts ?
Oui,
toujours. C'est parti. Première question de ce quiz à la con. Lequel de ces acronymes d'anciens partis politiques n'a pas existé ?
Ok.
Réponse A, le PDF ? Qui devait être hyper clair et organisé. Le MDR, qui devait être vraiment marrant. Le PCR, qui ne devait pas être très agréable. Et le IRL, qui devait être en phase avec la vraie vie des gens. Selon vous, parmi ces 4 propositions, lequel n'a pas existé ? Il y en a 3 qui ont existé. Hein.
Ouais, le IRL, il existe. Non, il n'existe pas.
J'en sais rien, je te demande. Le IRL.
Moi, j'aurais dit IRL
aussi. Ouais, IRL, ouais. Non.
Pourquoi ? Parce que tu connais les autres, c'est ça ? T'as adhéré ? T'as milité, Antoine Dino ?
Tout à fait. Ouais, surtout au PDF, c'était tout à fait sympathique.
Ton côté Fondation Jean Jaurès, ça. Ouais, PDF, ouais.
Le MDR ?
Le MDR.
Ouais.
Le mouvement de la démocratie pour la République.
C'est ça, too much, en fait. Mais en même temps, j'aime ce qui est too much, ça me fait kiffer. Donc,
tu donnes la réponse.
Non, j'en sais rien. Non, je sais pas, je viens d'inventer. Hein.
On discute.
Le mouvement démocrate-républicain. Non, j'en sais rien.
Ouais. Il y a des démocraties, il peut y avoir souvent des partis avec
des
Ouais, pareil pour parti, donc pas PDF, pas PCR. Je vous donne mes petits tips.
Parti de la démocratie française, parti communiste républicain, PCR. Non, j'en sais rien, je sais pas.
Le IRL, Emmanuel Macron y a adhéré depuis le début de la semaine, là, il le voit sur ses déplacements. Et ça se passe pas très bien, il y a que des casseroles.
Ouais. IRL, ça tape, ouais.
IRL, je...
IRL, l'Institut pour le renouveau de la liberté. J'en sais rien. vos réponses. Le chat a voté réponse D. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine?
Ah bah oui.
Toi, tu dis IRL, réponse D. Latifa aussi.
Le MDR pour moi.
Toi, tu dis le MDR, c'est la réponse
B. Ah non, je crois que le MDR, ça a existé.
Barbara Pompili.
Bon, le IRL aussi, ça me dit rien du tout, mais après...
Faut donner une réponse. On peut pas faire
de même temps, D, alors D.
Alors, réponse D, c'est la bonne réponse. Bravo le chat et bravo à vous sur le plateau, effectivement. Alors, le PDF, c'était le Parti démocrate français. C'est un parti libéral scissionné du mouvement des radicaux de gauche qui n'a été actif qu'entre 82 et 86. Oh, putain, si on rentre dans les circonvolutions des radicaux entre 82 et 86... Donc le PDF, ça a existé. Le MDR, c'est le mouvement des réformateurs qui a été fondé par Jean-Pierre Soisson, successeur de l'Association des démocrates de 1992 à 2002.
Ok.
Ah, oh, ça a duré. Ça, c'était avant Internet.
Je n'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, donc le MDR.
Parce qu'Internet existait.
Et le PCR, c'est le Parti communiste révolutionnaire, parti marxiste-léniniste, maoïste, évidemment, actif de 74 à 83. Ah, ils n'ont pas survécu au tournant de la rigueur, les pauvres. Voilà, donc le PCR aussi a existé. Deuxième question de ce quiz à la con. Sur la page de Jean-Luc Mélenchon, on peut trouver un lien vers une seule de ces pages. Laquelle ? Réponse A, Staline. Réponse B, le Dalai Lama. Réponse C, Jésus. Réponse D, Faudel.
C'est la Je trouve ça, selon vous. Je trouve ça trop fun, Faudel.
Ouais.
C'est Sarkozy, Faudel.
je suis quasiment persuadé que c'est le Dalai Lama.
Ah ouais ?
Ouais.
Pourquoi ?
Parce qu'il avait dit... À un moment, il avait critiqué le Dalai Lama en disant qu'il faisait juste de prier sur un caillou, un truc comme ça. Il y a une histoire, donc ça me...
Ah ouais.
C'est la page de quoi ? C'est sur son site internet ? Ah mais non, parce que du coup, vous allez aller vérifier, bande de... sur la page quoi ? C'est la page Wikipédia.
Ouais.
Ah, sur la page Wikipédia.
Ah, sur la page...
C'est différent.
Ouais.
C'est
différent.
Ah oui,
d'accord.
Non,
c'est sur la page Wikipédia. Il vient de me le dire dans l'oreillette, c'est bien la page Wikipédia.
Oui, donc ça peut être ça.
Oui, donc oui. Parce que moi, je voyais très bien sur le site de Jean-Luc Mélenchon un truc un peu fun pour tirer sur la droite, sur Sarko, je veux vivre, Faudel, tout ça.
Quand t'as déroulé
tu vas trop loin.
Je vais trop loin, Malek.
Jésus.
J'ai besoin de fun.
Jésus, moi, ça aurait pu être Jésus.
Ouais, ça aurait pu être Jésus.
Premier influenceur de gauche de l'histoire, Jésus. Non, je sais pas, je cherche. Staline.
Il fait partie de l'UMIC ou pas, du coup Petite vanne, référence à une émission passée. Le Dalai Lama, du coup.
Donc toi, tu dis réponse B, le chat aussi. Donc toi, tu dis réponse B. Antoine, tu dis réponse B, toi, tu restes dessus. Latifa.
C pour le fun.
Toi, tu dis réponse C pour le fun, Jésus, ouais. Barbara Pompili.
Non, moi, j'ai trouvé Antoine convaincant, donc je le suis.
réponse B, Dalai Lama, pas réponse... réponse B, Dalai Lama, et c'est la bonne réponse, bravo, effectivement. Okay. Tout à fait. Bravo, 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 effectivement. Dans le paragraphe Chine et Tibet, on peut lire, deux points, ouvrez les guillemets, Jean-Luc Mélenchon affirme que les partisans du Dalai Lama avaient droit de vie et de mort sur les serfs avant que la Chine intervienne au Tibet dans les années 1950 et que les moines tibétains refusaient d'abolir le servage. Il se prononce contre la création d'un État tibétain qui serait religieux et théocratique. Et de mémoire, c'était en 2008, JO de Pékin, mobilisation partout en Europe contre les JO de Pékin sur la thèse tibétaine, RSF, etc., on s'en souvient. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait donné une voix hyper discordante en disant « Je suis désolé, entre la Chine et le Tibet, moi je choisis pas, le Dalai Lama c'est pas un saint, c'est théocratique, c'est autoritaire. »
Il y en a plusieurs, mais il a une énorme punchline à un moment sur le Dalai Lama, je m'en souviens plus exactement, mais c'est une histoire de prier sur un caillou, un truc comme
ça. Il a justifié la colonisation du Tibet aussi. Non, ça fait partie des dingueries qu'il a lâchées sur le truc international. Bon, voilà, c'est Jean-Luc. Troisième question de ce quiz à la con. Et sur la page Wikipédia d'Emmanuel Macron ?
Ah.
Quel...
Casserole, non, désolé.
Quel lien hypertexte ne trouve-t-on pas ?
Apaisement.
Cette fois-ci, la question, c'est
sur
lequel on ne
Wikipédia,
trouve pas.
Hein.
Sur la page Wikipédia d'Emmanuel Macron, lequel on ne trouve pas ? Réponse A, témoin de Jéhovah. Réponse B, Manu dans le cul. Réponse C, Machiavel. Ou réponse D, Beurre FM.
En tout cas, on sait que Bruno Le Maire n'a pas cliqué sur le lien Beurre FM.
alors. Peut-être pas assez souvent. Ouais. Ah, vous n'allez pas assez sur Wikipédia pour préparer les émissions à
Manu dans le cul.
Je ne vois pas pourquoi il y aurait un lien.
Mais oui.
Manu dans le cul.
Mais je le capte. En fait,
c'est étonnant. Ouais. En même temps, ça paraît tellement évident que du coup, ça doit être un piège.
Soit c'est évident, soit vraiment.
Les quatre réponses
c'est,
sont probables.
C'est du génie, en fait.
C'est du génie.
Max, c'est du génie.
Parce que donc, c'est des mots liens par rapport à des choses qui seraient passées.
Donc, en fait, ça renvoie vers une page Wikipédia, si on clique dessus.
Oui.
Et donc, laquelle.
Il y a bien un lien avec Emmanuel Macron.
Donc, il y en a trois. Bah, oui, oui, c'est ça. Quelque part dans la page d'Emmanuel Macron, il y a des trucs qui justifient de renvoyer vers trois de ces trucs-là.
Et moi, je veux savoir à quel moment Manu dans le cul est arrivé dans le truc.
Tu sais, c'est Max qui écrit les questions, il est peut-être fait.
Ben oui, mais Max est un génie, en plus c'est un taré, donc je ne sais plus quoi faire. Max,
parce que Beurre FM, il peut avoir fait une citation à un moment, il peut avoir fait une interview.
Il en a fait pas mal.
À Beurre FM ?
En 2017, quand il disait de belles choses avant d'être président.
T'es vénère, toi, en ce moment.
Waouh, un peu léger.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Le chat a voté? Ah ouais, c'est tendu dans le chat. Hein. La France est coupée en trois. Hein. C'est témoin de Jéhovah, mais seulement 36%. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine?
Je vais suivre l'avis populaire, je veux dire témoin de Jéhovah.
Témoin de Jéhovah.
Pas du tout convaincu par rien du tout.
Réponse A, selon toi, témoin de Jéhovah.
On trouve.
Latifa.
Moi, je vais dire la B, parce que quand même, ils doivent la com, ils doivent jeter un coup d'œil à la page Wikipédia du président.
Ah, mais c'est que c'est pas si simple que ça, justement. Ouais, Wikipédia, ils empêchent les modifier de les pages par les équipes.
Oui, mais ouais, il faut modifier beaucoup, pas mal de pages sur un même sujet. Enfin, bref. C'est bon. Bref, moi, je dis la B.
Donc, toi, tu dis la réponse B.
On notera qu'on s'est pas du tout posé la question pour Machiavel.
Oui, c'est vrai.
On je
l'accorde.
Voilà. François Hollande, on salue. Manu dans le cul, pour moi, ouais.
Réponse B aussi.
Ouais, moi aussi.
Réponse B également pour Barbara Pompili. Et c'est le chat qui a raison, et Antoine, c'est la réponse A, figurez-vous.
Ok.
Ouais. Toutes les autres sont vraies. Au paragraphe, dans la culture populaire, on peut lire, je cite, en 2019, Damien XVI sort à l'occasion de l'anniversaire du début du mouvement des Gilets jaunes, la chanson Manu dans le cul.
Ah.
Il y a un lien.
Ok.
D'accord.
Et c'est Damien XVI, bah, faut connaître la discographie de Damien XVI. C'est il y a bon, on a un peu passé l'âge, mais ouais. Tac, donc, c'est un truc sur les Gilets jaunes, machin. Il y a quoi d'autre? Ses mémoires d'études sont dédiées à des penseurs politiques, notamment Machiavel.
Ok.
Ah, il a fait un mémoire sur Machiavel.
Ok.
Quand il était étudiant.
Ça l'a inspiré.
Tu m'étonnes.
Et enfin, lors de l'affaire Mohamed Sahou, Macron apporte son soutien à ce dernier sur Beurre FM.
Que je connais, Mohamed Sahou.
Voilà.
Ancien responsable départemental En Marche dans le Val-d'Oise.
Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu la faire en tête.
Bah, bref, il a fini par démissionner et quitter. Enfin, bon, un...
Ok, d'accord.
C'était pas simple.
C'est une histoire.
Ok, d'accord. Bon, un truc
c'est
local.
Pas 10 minutes,
donc,
on le fait, mais.
Effectivement, sur Beurre FM, il a donné une interview, etc. Donc voilà les raisons, chers amis. Quatrième question de ce quiz à la con. Lequel de ces titres de livres politiques est faux? N'existe pas.
Alors pensons au bouquin de Ségolène.
Réponse A. Ce que l'on ne veut pas que je vous dise.
Okay.
Réponse B. Ce que je peux enfin vous dire.
Celui-là
réponse
est vrai.
C. Je ne me tairai plus. Réponse D. Je vous dirai tout.
Et t'as les chiffres de vente pour ces livres? C'est quoi, 10?
J'ai pas les chiffres de vente, mais j'ai la réponse à la question, mais j'ai pas les chiffres de vente. C'est triste. Lequel de ces titres livres est faux?
Moi, je dis D.
Je vous dirai tout?
Ouais.
Ok. Moi, j'ai un souvenir d'un livre qui a existé qui s'appelle Promis, j'arrête la langue de bois.
Jean-François
Copé.
Qui a été
écrit par Jean-François Copé. Une merveille, ce livre.
C'est vrai. Ouais, yeah.
Très grand moment.
Je vous dirai tout.
Il y avait aussi.
Je crois que c'est le top 1, quoi, le meilleur.
Il y avait aussi Serge Dassault, Mon projet pour la France, que j'ai offert à un pote communiste pour son anniversaire. Et on l'ouvrait à n'importe quelle page. On se pissait dessus de rire tellement c'était mal écrit, nul. Enfin, c'était vraiment une espèce de droite populo un peu débile. Oh, on travaille pas assez dans ce pays. Enfin, vraiment, putain, merde.
Je crois que Mon projet pour la France, il doit y en avoir eu beaucoup. Mais bon.
Oui, Mon projet pour la France, il y en a eu deux, trois, des bouquins qui s'appellent comme ça. Oui, c'est vrai.
Le premier, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, j'ai l'impression que c'est le titre du bouquin d'Alexandre Benalla. Mais peut-être que je me trompe total. Le C, je sais, je l'ai lu.
T'as lu le bouquin?
J'ai lu le bouquin.
Ok, d'accord, bon.
Comme ça, je vous tue tout de suite le truc.
Le chat, il répond. Réponse D.
Je dirais D aussi.
Toi, tu dirais D aussi?
Je vous dirais tout. Qui a envie de tout dire? Personne. En politique.
En tout cas, de le promettre sur la couve d'un bouquin, si
ouais.
On le croit. Ok, donc toi, t'as aucune personnalité, Antoine, tu suis le chat aujourd'hui. D'accord, j'ai compris.
Non, mais j'ai influencé le chat.
C'est vrai que t'as influencé tout à l'heure, c'est vrai, je te l'accorde. Latifa.
Je ne me tairai plus, parce que ça fait trop.
Je ne me tairai plus.
Ouais, avant, on était menacés. Enfin, quand on est responsable politique, on est. Enfin, bref. Ouais. Je ne me tairai plus, ça me...
Tu les connais comme moi, les ceux qui chialent sur tous les plateaux en disant « je peux plus parler, on m'empêche de parler ».
Non, c'est vrai, mais après sortir un livre en disant « ouais,
on m'empêche de parler, ah, ta gueule ». Pardon. Malek, donc toi, tu
réponse
dis,
okay, B pour moi.
C, toi, tu dis réponse B, ce que je peux enfin vous dire. Barbara Pompili.
Moi, D.
Réponse D, je vous dirai tout. Et c'est la bonne réponse. Ouais. Bravo, Barbara Pompili, effectivement. Ouais. Et le chat aussi, vous avez trouvé. Ouais. Le premier, ce que l'on ne veut pas que je vous dise, c'est un livre de Frédéric Dumas, sorti en 2022, que nous avions reçu sur le plateau
de Bakhti. Ah oui, c'est vrai, bah oui, je suis bête. Ouais. J'étais là.
Il était venu nous parler de son bouquin.
Je suis idiot.
En plus, t'étais sur le plateau.
Mais j'étais sur le plateau, j'ai lu le bouquin en plus.
Ah ouais, ouais.
Je l'ai pas lu pour l'émission, voilà, je l'ai lu
un
après.
Un bouquin règlement de compte.
Ouais, waouh.
Pas ouf. Hein. C'est pas un sympa. Chapitre, une personne, et puis ça envoyait.
C'était pas trop l'apaisement.
Ah non. Pas dans une logique d'apaisement. On était sur un règlement de compte hyper vénère, mais on l'avait reçu et t'es venu nous en parler. Le livre, ce que je peux enfin vous dire, c'est Ségolène Royal en 2018.
Et voilà. La C, je crois que c'est Amine. Non, du tout. Mmh. Ok.
Non. Vous savez qui c'est? Je ne me tairai plus.
C'est qui?
C'est Claude Bartolone.
Oh.
Oui, il a aussi.
Waouh. Wow,
voilà, ancien député, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien, alors, ancien parrain de la Seine-Saint-Denis.
Amine El Bailly, qui était responsable républicain, son livre c'était Je ne me tairai pas. Ah! Je me suis fait piéger. Bravo, Max.
T'avais pas lu le bon. C'est vraiment le manque d'originalité du bouquin. Allez, cinquième et dernière question de ce quiz à la con. En 2017, le Discord Insoumis sort un jeu pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Quel est le nom de ce jeu? Si vous connaissez le titre, vous le hurlez pas, vous laissez les autres galérer. Réponse A, League of Legends. Réponse B, Ocarina of Tax. Réponse C, Fiscal Combat. Réponse D, Grand Theft Auto Entrepreneur.
Je trouve ça fun. C'est mieux que le serveur Minecraft d'Emmanuel Macron.
Oui. On l'avait visité, le serveur Minecraft, ouais, en live. Il y avait Nemo qui se baladait, ouais, sur le serveur, on pouvait, ouais, lui parler.
Je me rappelle.
Il y avait une gendarmerie. Il y avait...
Je me rappelle.
Oui, c'était bon.
Je me rappelle. Et puis on nous avait dit que ça, c'était bien aussi pour inciter à s'inscrire sur les listes électorales.
Il y avait un truc qui était bien. Non, il y a un truc qui était bien sur le serveur d'En Marche, effectivement. C'est que quand tu te rentrais dans la mairie sur Minecraft, si tu parlais à un PNJ qui était derrière, mm-hmm, un bureau... Il te demandait, es-tu inscrit sur la liste électorale? Clique ici pour vérifier. Et ça te renvoyait vers le... Et ça, je trouve... Ok. Ok, ça, j'admets, plutôt cool, bien pensé.
Ça aurait été vraiment cool si la secrétaire d'État déléguée à la citoyenneté aurait fait un vrai travail d'inscription sur la liste électorale. Marlène Schiappa, on t'embrasse.
Ah, toi, ok, donc là, ce soir, tu... D'accord,
je suis en forme, hein, je suis désolé.
Moi, je suis là pour dire, il y a des trucs bien qui sont faits. Toi, tu
mais
dis,
c'est
ouais,
bien,
mais
c'est
ça aurait
bien,
été mieux
bien,
aussi.
Ça aurait été mieux aussi, voilà.
Okay, je te l'accorde. Du coup...
C'est bon, mieux que le fond Marianne.
Je sais que les gens dans le chat, ils ont tous...
Désolé.
Allez. Les gens dans le chat, de toute façon, ils ont tous fait leur PB sur ce jeu. Vous connaissez la réponse. Tu connais la réponse, toi, Latifa, ou pas?
C'est Fiscal Combat.
Tu connais la réponse, toi?
Je trouve que Fiscal Combat, c'est le plus sexy. Oui. Je ne connais pas la réponse.
Vous avez joué à Fiscal Combat, c'est la bonne réponse, effectivement.
Okay. Oui.
Tu as joué? Fiscal Combat, et il y avait aussi la version avec Manon Aubry, ouais, qui était tête de liste pour les européennes, ouais, et elle se battait contre Van der Leyen et contre les taxes et tout, machin. Effectivement, mais j'aime beaucoup League of Legends, Ocarina of Tax et Grand Theft Auto-Entrepreneur.
C'est très fort.
Si ça vous donne des idées pour les européennes, pour la présidentielle, n'hésitez pas à dev. Et donc, effectivement, c'était Jean-Luc Mélenchon qui secouait les oligarques, les uns un à un. Et donc, c'était en 2017. Donc, il y avait Jérôme Cahuzac, Christine Lagarde, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Pierre Gattaz, Patrick Balkany, Liliane Bettencourt. François donc il le secouait pour qu'il rende l'argent, etc. Voilà, c'était pas le voilà. Mais donc c'était effectivement ça. Bon, moi, bravo pour ce quiz à la con. Vous en êtes tous super bien sortis, chers amis. On va remercier Barbara Pompili d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci, Barbara Pompili. Je vous laisse quitter le plateau. On va conclure l'émission avec mes chroniqueurs et on veut rejoindre tout de suite. Voilà, merci beaucoup.
Je reprends mon verre.
Oui, le gobelet. Oui. La poubelle jaune.
Ouais. Et peut-être qu'un jour, donc.
Ouais, je promis. Promis. Je l'avais déjà dit l'année dernière, je sais, c'est pas bien, mais promis, on aura un jour des gourdes.
Si tout le monde fait ça.
Oui, non, je sais. Non,
on se fait engueuler, les gars.
Non, mais je me fais engueuler, mais oui, en même temps.
Des gourdes backseat, c'est
bon. Voilà, faites des dons, on achètera des gourdes. Il faut qu'on ait des gourdes et puis des bouteilles en plastique, je suis d'accord. Alors, chers amis, c'était cool, Latifa, première émission en tant que chroniqueuse.
Merci beaucoup.
T'en as pensé quoi?
C'était chouette, c'est marrant de passer de ce côté.
Parce que tu regardais Backseat et tout?
Oui.
Bah c'est cool.
Bah ouais.
Bon alors ça fait quoi du coup de l'autre côté du bureau?
C'est un peu moins détente à regarder.
Ah ouais?
Un peu moins détente à faire. Voilà.
D'accord, ok. Antoine, ça t'a plu?
Bah oui, très sympa. Plus court que, enfin, différent de d'habitude en termes d'agencement.
Ouais, parce qu'on a voulu parler du Battle 4, du handicap, et en plus on a invité la ministre qui a accepté de venir, et donc du coup ça nous a contraint un petit peu, mais non, je sais pas, il y a des frustrations, des trucs. Toi, t'étais parti pour régler des comptes, il y a des trucs. Ouais, t'as pas dit, Malek? Tu veux balancer des punchs là?
En fait, c'est un vrai problème, c'est que donc là j'ai repris le sport avec un coach depuis 3 semaines et qui m'a dit, Malek, ça va libérer des énergies. Et là, voilà, donc j'ai fait une grosse séance ce matin. Je le salue, Alex. C'est pour ça. Et là, je suis waouh.
Ah, t'es bouillant là.
Ah, je suis bouillant, mec.
Bon, ok. Eh ben, écoute, ça fait tant de plaisir quand t'es bouillant.
Merci, Baptiste, de m'accueillir.
Je crois que le chat adore quand t'es bouillant aussi. Où est-ce qu'on vous retrouve, les copains? Latifa, où est-ce qu'on te retrouve?
Au travail, le mouvement, le site internet où vous pourrez retrouver toutes nos actions. Nos
Eh ben, c'est le moment de le donner, du coup. C'est le-mouvement.
Ouais,
c'est
quoi? lemouvement.ong.
.ong.
Avec des belles campagnes et tout, faut y aller.
On te retrouve sur le Twitter qui va bien aussi.
Exactement.
C'est quoi ton hâte? Redis-le.
Qui est très difficile à prononcer, c'est fait exprès. C'est LA2LAKHR.
Ok, très bien.
Je préfère les plaies, voilà.
N'hésitez pas à follow. Latifa, bah voilà, regarde, ça s'affiche, c'est nickel. Antoine.
Fondation Jean Jaurès, hein, toujours.
Fondation Jean Jaurès, vous sortez des trucs bientôt? Il y a des trucs.
Mais on sort toujours des
tous
trucs.
Tous les jours.
Ouais, en plus, c'est vrai, ça pompe.
Quand tu reçois tes mails de la FJJ, t'es content, tu reçois du contenu, tu as envie de lire, mec.
Ouais, moi je lis le matin. Ouais, non, carrément.
Ah, toi aussi le matin?
Ouais, le matin, il faut que j'arrête de tweeter. Maintenant, il faut que je lise plus la Fondation Jean Jaurès, c'est que j'arrête de tweeter le matin. Tac. Du coup, ce week-end, Battle 4, n'hésitez pas à faire des dons, les handicaps. Voilà, on vous a présenté les assos et tout, n'hésitez pas à y aller à fond. Backseat, n'hésitez pas aussi, tout ça. Voilà, l'émission, elle vous plaît. On a besoin de vos dons, les amis, pour la continuer cette émission. Merci tout d'abord à toutes les personnes qui donnent. Et on est en train de bosser comme des oufs pour essayer de vous ressortir le plus vite possible un shop, des dons ponctuels, etc. N'hésitez pas à venir ici dans le public. Je rappelle, si vous êtes lyonnaise, lyonnais ou que vous êtes dans le coin de tout ce qui est là-bas, du côté de la Garonne, quoi, n'hésitez pas à venir samedi. On boit des coups samedi. C'est une rencontre abonnée. Maintenant que les beaux jours reviennent et tout, que le Covid est passé, je vais revenir vous voir, les amis. J'ai très envie de passer du temps avec vous, boire des bières. Vous trouverez toutes les informations sur le serveur Discord, .Discord dans le chat. Les informations sont mises dedans, à quelle heure on se retrouve, dans quel bar, etc. Venez boire de coups, ramenez des potes, ça va être cool, etc. C'est bon, ça trigger tout le monde, la Garonne, c'est fait exprès. Extraordinaire. Et la semaine prochaine, est-ce que je vous annonce déjà des trucs? Attends, je regarde mon agenda. Ah, il va y avoir des trucs cool. Ouais, je vous annoncerai plus tard. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.